Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle et le Gamer. Bonjour, bonjour Asa.
Bonjour Ben.
Nous avons une Asa en grande forme, mais également en grande fatigue. Non. Elle arrive à faire les deux à la fois.
C'est ça.
Bonjour à tous. C'est l'épisode numéro 322. Nous sommes le lundi 29 avril 2024. Merci de nous rejoindre cette semaine, Asa. Comment vas-tu?
Alors, on va faire un point.
Tu n'étais pas là la semaine dernière.
Un petit point santé d'Asa.
Ouais, bon.
Non, en fait, donc en ce moment, j'ai vraiment une très grosse fatigue, mais proche de l'épuisement, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à me lever du canapé. Je ne me suis pas lavée depuis 4 jours. Enfin, bon, vraiment, on est sur de la bonne grosse fatigue, mais vraiment bizarre, quoi. Plus que d'habitude, hein, pour le coup. Donc il y a deux choix. Soit c'est une accumulation du stress avec la période difficile et les événements difficiles qu'on vit en ce moment. Soit il y a un problème avec mon traitement pour ma superbe maladie rare de la thyroïde d'Hashimoto. Et voilà.
Donc semaine prise de sang, ça va être cool.
Semaine, oui, voilà, la semaine prochaine j'ai prise de sang. Enfin cette semaine, puisque vous écoutez ça lundi. Je vais avoir prise de sang et rendez-vous chez l'endocrino la semaine prochaine pour voir si c'est le stress ou s'il faut arrêter mon traitement et que je ne pourrai jamais guérir de ma maladie d'Hashimoto.
C'est très réjouissant. Non, mais on va se soigner, on va faire ce qu'il faut, enfin, on va te soigner.
Il est possible, ouais, possible, comme 90% du temps, à chaque fois que je vais voir un médecin, qu'on me dise, ben, on ne peut pas vous soigner. C'est ça la médecine moderne.
C'est ça la médecine moderne, c'est que ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Bien.
Moi, avant, ils te faisaient un petit exorcisme, tu vois.
Mais c'est ça qu'il faudrait, en fait, un exorcisme.
C'est possible.
Si parmi nos auditeurs, il y a des exorcistes.
Exactement.
Non, en fait, je regrette ce que j'ai dit. Non, laissez-nous tranquilles.
Ça peut partir en couille, ça peut partir en couille, surtout que.
Ça va pas du tout. Mais. sinon, à part ça, jeux vidéo, ça va.
Jeux vidéo, ça va à peu près.
Enfin, ouais, à peu près, parce que bon.
Mais c'est pas top non plus, jeux vidéo.
Jeux vidéo, ça va.
Enfin, je suis pas prête de reprendre FF14, quoi, tu vois.
Ouais, mais parce que tu passes 27 heures par jour sur Honkai.
Non. En ce moment, je passe 24 heures par jour sur le canapé. Une heure par jour sur Honkai. Une heure par jour sur Honkai. Okay. Non. Okay. Une heure par jour sur Honkai.
Oui, oui.
Je passe pas une heure par jour sur Honkai, je passe combien? 2 heures.
Oui.
Le soir.
Oui.
Voilà, 2 heures par jour sur Honkai. Et parfois, une demi-heure sur Genshin quand j'ai
Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même Ben, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où on peut trouver des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles, avec un Z.
C'est ça.
Alors, t'étais pas là la semaine dernière, du coup j'ai fait plein de conneries, donc on va rattraper.
Oh putain.
Ah, le thème, c'est rattraper les conneries de quand t'étais pas là.
Okay.
On a oublié de remercier un nouveau Patreon.
Ah, carrément, quoi.
Ouais, carrément.
Ah, ok.
Ouais, on en est là.
Direct, quoi.
Donc, on a un nouveau Patreon qu'on doit remercier. Merci d'avoir rejoint notre armée de Patreon, fils de Gandalf. Merci à toi, le bonjour à ton père et
merci beaucoup fils de Gandalf. Que généralement quand tu commences par fils de, ça finit pas par Gandalf, parce que Ben, il y a une expression qu'il adore,
c'est fils de Gandalf,
c'est fils de
exactement.
Je sais pas pourquoi, parce que moi c'est un truc que j'utilise pas vraiment, que j'ai jamais trop utilisé, ni dans ma jeunesse quand j'ai insulté les gens, tout ça.
Fils de Gandalf, c'est parce que Seigneur des Anneaux était moins à la mode. Voilà.
Non, fils de pute, tu dis depuis.
Non. Et
ça, c'est ton insulte préférée, quoi.
Bah seulement pour les gens qui méritent.
C'est ça.
Merci à toi.
Merci, fils de Gandalf, c'est super.
Non, on a aussi dit des conneries dans l'actu, mais on y reviendra tout à l'heure. Hein.
Putain, mais quand je suis pas là, c'est le bordel. Hein.
Mais ça marche pas sans toi. J'ai toujours dit. Mais avant, avant de se lancer dans l'actu.
Et puis vous verrez, vous verriez l'état de la maison, c'est même pas la peine.
Avant de se lancer dans l'actu.
Ben, il a chié partout, j'ai pas nettoyé.
Avant de se lancer dans l'actu. Voyons un petit peu les jeux qu'on a testés cette semaine, les jeux auxquels on a joué cette semaine. Bonne sélection.
Ouais,
hein.
Ça va.
Bonne sélection. Alors, avant de commencer.
On a fait des trucs rigolos, je trouve.
On a fait des trucs rigolos, ouais. On s'est un petit peu rattrapé aux branches, hein, parce qu'avec les
sorties.
Ah
oui, non, c'était pas non plus.
C'est pas la fête. Non, mais c'était cool. C'était cool. Alors, il y a un jeu qui fait. Forcément, dans les sorties de cette semaine, on peut pas trop passer à côté. Hein. C'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui. Hein. Un Souls-like avec les protagonistes, on en a parlé, les protagonistes aux proportions un petit peu problématiques, hein. C'est un jeu qui a un grave problème de plastique, hein, c'est bien entendu Another Crab's Treasure.
Oui, voilà, je me disais, c'est ça que tu parles.
Ouais, non, tout à fait. C'est le seul.
Another Crab's Treasure.
Le seul Souls-like qui est sorti cette semaine.
Bah, c'est vrai en plus.
Mais ouais, exactement. Another Crab's Treasure, c'est sorti cette semaine. Alors, c'est sorti sur tout, hein, c'est dispo sur.
Sur ton frigo aussi. Hein.
Alors, non, tu peux pas faire de la publicité mensongère. Hein,
Ça va, tu l'as fait 100 fois cette blague. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de la faire?
Parce que c'est la mienne.
Sur ton god. Pas... Sur ton... Si t'as un truc. Il n'y a pas des godes avec des...
Avec des écrans...
Je sais pas, peut-être. Je sais... Un god avec écran qui te passe du porno, c'est pas vachement bien.
Ok, donc...
Je sais pas.
Vous pouvez aller sur kickstarter.com/aza pour soutenir son projet.
Non.
C'est disponible
peut-être
sur Switch.
Peut-être qu'un jour, je devrais aller sur Kickstarter, mais ce sera pas pour ça. Je fais pas de god, moi.
C'est disponible sur Switch, sur PlayStation 5, sur... PC, Steam et sur Xbox. Sur Xbox, le jeu est également disponible sur le Game Pass.
Ah c'est bien ça. C'est cool. Un bon jeu Game Pass.
C'est un bon jeu Game Pass, hein, voilà. C'est un jeu, après, pour ceux qui n'ont pas le Game Pass, c'est un jeu qui sort à 30€. C'est pas non plus une fortune. Mais sans rire, voilà, Another Crab's Treasure, c'est un Souls-like, mais où tu joues un Bernard l'Ermite, pour être précis. Un Bernard l'Ermite qui se fait saisir sa coquille par les impôts.
C'est ça.
Il n'a pas payé ses impôts, donc il se fait saisir sa coquille par un requin. Et c'est un problème, donc il s'en va aller chercher l'aide de la baronne de la région.
Duchesse.
C'est une duchesse, pardon, excuse-moi. C'est une duchesse qui règne sur la région de façon un petit peu autoritaire et qui a mis en place des taxes. Et du coup, à cause de ça, il s'est fait saisir sa carapace. Donc ça se passe sous l'eau. Tu es un Bernard l'Ermite sans coquille. Sans coquille au début du jeu, parce que assez rapidement, tu as la possibilité d'improviser des coquilles avec toutes les saloperies que tu vas trouver au fond de l'océan.
Oui, voilà. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est aussi l'aspect... Donc, l'océan n'est pas du tout propre. Hein, il est plutôt réaliste. C'est-à-dire qu'il est plein de déchets, de merde et
de canettes, de plastique.
Voilà. Et donc, tout le jeu est axé là-dessus, en fait. Donc, ce que tu récupères... au début, donc, tu récupères une arme, c'est une vieille fourchette rouillée.
Ouais.
Et après, pour tes carapaces, ça va être des canettes, des pots de bananes, des boîtes de conserve.
Ouais, tout ce que tu trouves. Quoi.
Toutes les merdes possibles qui sont jetées dans les océans.
Mmh.
Et après, tu vas upgrader tes skills et tes points de compétences, tout ça, avec du plastique.
Du plastique, voilà. Tout ce que toutes les saloperies que tu récupères, tu convertis ça en microplastique, en fait.
Ouais.
Et ça sert de monnaie, comme les âmes servent de monnaie dans Dark Souls. Hein. Mais sinon, il y a beaucoup de mécaniques que tu vas retrouver là-dedans. L'originalité du jeu, c'est vraiment cette histoire de coquilles que tu peux changer à la volée. C'est très rapide de changer de coquille, il y en a partout. Tellement rapide que c'est quelque chose que tu peux très bien faire en combat.
Oui. Généralement, quand il y a un boss, il y a 4 ou 5 canettes autour que tu peux...
Que tu peux, voilà, de coquilles de secours pour pouvoir changer pendant le combat, parce qu'elles ont une durabilité assez faible. Hein,
oui.
Tu te sers de cette coquille pour faire tes contres et tes parades.
Mm.
Mais bon, si tu te caches dans ta coquille pour faire un blocage, la coquille va être endommagée. Et généralement, 3 ou 4 coups, c'est mort. Il va falloir en trouver une autre, ou sinon tu es très fragile. Les coquilles sont aussi l'origine de tes sorts, parce qu'il y a un système de magie qui te permet de lancer des attaques spéciales en fonction de la coquille que tu as. Donc chaque coquille est associée à un sort.
Ouais.
Donc vraiment, tu vas pouvoir avoir tes coquilles préférées parce que celle-là, bah, elle a plus de durabilité ou elle est plus légère, donc tu vas pouvoir faire des esquives et des roulades un petit peu plus efficaces. Ou alors, elle a un sort particulièrement puissant que tu vas pouvoir utiliser en combat. Donc vraiment, changer de coquille, tu passes de l'une à l'autre assez rapidement et assez souvent. Donc c'est plutôt dynamique de ce côté-là. Voilà. Après la structure du jeu, voilà, non, c'est un Souls-like. Tu explores une zone assez ouverte, tu fais pas mal d'exploration et tu fais ta quête. Tu vas suivre l'axe principal qui va t'emmener à différents endroits. Mm. C'est assez bien fait, c'est très bien écrit.
Ah oui.
Les dialogues sont vraiment marrants, ils sont cool. Il y a un second degré qui marche super bien sur ce jeu.
Ouais.
Les combats sont voilà, c'est pas non plus la panacée après, du Souls-like, mais
voilà, tu joues pas Elden Ring, quoi.
C'est pas Elden Ring, c'est assez basique, hein. Tu as une attaque
et
normale.
Et ça reste, mais c'est ouais, le charme du jeu, c'est vraiment l'écriture, tout ça, le second degré, et puis. Enfin, c'est un Souls-like, mais c'est accessible en fait. Il y a le coup de.
Ouais. Ah, voilà, c'est. Niveau difficulté, c'est un jeu assez difficile de base parce que c'est un Souls-like. Hein, donc, c'est, voilà, quand tu te prends des coups, bah, tu perds beaucoup de vie. Ouais. Ça peut aller très très vite. Contre un boss, il peut te tuer en un coup ou deux très, très facilement. Mais il y a aussi beaucoup d'options d'accessibilité qui peuvent rendre le jeu plus facile. Tu as toute une page d'options où tu peux activer. Voilà, tu peux te mettre plus de vie, réduire la vie des ennemis, faire augmenter tes dégâts, ce genre de choses. Ça, c'est assez, assez classique. Et sinon, si vraiment tu as du mal, il y a l'option ultime qui te. Et l'option ultime, c'est de filer à ton personnage, à ton Bernard Lhermitte, de lui filer un flingue.
Mais c'est un flingue grandeur nature.
Ouais, voilà. Tu te retrouves avec.
Taille réelle. Donc en fait, je crois que ça fait ta carapace, hein. Si.
Ouais, ça fait une carapace flingue.
Et donc tu tires une balle et ça one shot.
Ouais, tu voilà. On l'a testé sur un boss. Il y avait plus de boss.
One shot.
Ouais. Donc c'est plutôt rigolo.
C'est rigolo. Du coup, si t'arrives pas à passer un boss, t'as toujours l'option de le défoncer, quoi.
Voilà.
je trouve ça marrant, moi.
Ouais, c'est ça. Je me rends pas compte si le jeu est long ou pas. Je vais essayer de voir si je trouve l'info. Une quinzaine d'heures, a priori. Donc, c'est un jeu assez court. Ce qui est bien, tu vois, parce que, voilà, comme dit...
Bah, c'est un jeu à 30 euros, donc...
C'est un jeu à 30 euros, le gameplay, c'est pas non plus le truc le plus abouti.
Oui, non, ça va.
Ça a pas la précision d'un jeu de From ou des trucs comme ça. L'écriture, ça va 5 minutes. C'est bien écrit, c'est cool, mais ça a un charme.
Mais voilà, il faut pas que ce soit trop long, quoi.
Exactement. Mm. Exactement. Donc voilà, une quinzaine d'heures pour faire le jeu, une vingtaine si tu veux vraiment tout explorer et faire tous les à côté. C'est, pour un jeu à 30 euros, c'est très très cool. Mm,
c'est très bien.
C'est très très cool, c'est assez joli, c'est très cartoon, hein, t'as presque l'impression de voir un épisode de Bob l'éponge. Mais,
c'est vrai, ça fait très Bob l'éponge.
Ouais, ça donne cette impression-là, mais c'est marrant, c'est à voir. Voilà, comme dit, surtout si vous savez pas trop à quoi jouer en ce moment et que vous avez le Game Pass qui traîne, rentabilisez-le, essayez ça, c'est pas mal du tout. Un autre jeu qui fait pas mal de bruit cette semaine, c'est plutôt pour les joueurs PC. C'est Manor Lords.
Ouais, c'est uniquement sur PC, c'est ça ?
Pour l'instant, c'est uniquement sur PC. On est en Early Access.
Ah oui, oui.
On est en Early Access. De toute façon, la Switch, il ne marchera pas sur Switch.
Non, la Switch, c'est même pas la peine.
Sony PlayStation ne veut pas de jeux Early Access sur PlayStation.
Mais ils ont raison, non ?
Oui,
mais il y a des jeux early access qui sortent sur console.
Ça arrive tout à fait sur Xbox, hein, puisqu'il n'y a que Xbox qui autorise un programme d'early access. Mais par exemple, techniquement, Palworld, qui est sorti sur Xbox, est un jeu early access.
Est-ce que c'était un bon exemple ?
Il y a d'autres meilleurs exemples que j'ai pas là sous la main.
Hades,
mais,
par exemple, il était en early access sur Xbox. Non, il est sorti après.
Non, Hades est sorti sur Xbox quand il était terminé. Mais okay. ça serait un exemple. Tu vois, par exemple, Hades 2 qui va sortir en early access très bientôt, là, il pourrait sortir sur Xbox s'ils veulent, mais sur PlayStation, Sony n'autorise pas. En principe.
Ouais, écoute, bah après...
Après, j'imagine quand tu t'appelles Hades, Sony font des exceptions, hein, mais...
Bah, je sais pas, Sony, ils font des exceptions pour n'importe qui, hein, excuse-moi, mais...
Oui. Oui,
voilà, ils font tout ce qu'ils veulent. On va pas commencer à parler de Sony.
Non,
hein.
Non, mais ils ont
voilà, l'air. Merci, bonjour Sony, comment ça va ?
Manor Lords, donc...
Manor Lord, ouais.
Donc qu'est-ce que c'est alors?
J'ai rien compris.
T'as rien compris, arrête. On a joué pendant 5 heures ensemble et au bout d'un moment, c'est toi qui me disais ce que je devais faire et tu m'engueulais quand je mettais pas les familles où il fallait.
Bah oui, comme d'habitude, mais...
C'est un gestionnaire de village médiéval. Hein.
De village de Pecno, ouais, alors, médiéval.
Mais alors, sois gentil avec ces pauvres gens, ils font ce qu'ils peuvent. Hein.
Non, c'est bien, mais...
Non, Manor Lord, ça fait longtemps qu'il est en développement. Alors déjà, contexte, le jeu est sorti en Early Access. Mmh. Pour l'instant, l'Early Access est proposé à 30 euros. Mmh. C'est un jeu développé par un développeur unique, tout seul.
C'est un mec tout seul ?
C'est un mec tout seul qui a fait Manor Lords jusque-là.
Ah, pardon, alors ça va.
Ça lui a pris 7 ans.
Ouais, c'est...
7 ans de développement pour ça. Le résultat est plutôt correct. Hein,
bien sûr,
c'est,
oui.
Et c'est... Voilà, c'est un... Un city builder basé sur un village médiéval. Hein. Tu vas construire ton petit village médiéval avec une composante militaire, ça on va en parler. Mais voilà, en gros, tu commences par deux ou trois familles de paysans qui sont sous une tente. Tu vas leur construire des maisons, des habitations, ce genre de choses. Et ensuite, tu vas commencer à construire un petit peu toutes les commodités voilà, pour pouvoir aller chasser, aller cueillir des trucs, aller cultiver des champs, aller élever des animaux. Et au fur et à mesure, tu t'améliores. Tu vas pouvoir récupérer des matériaux comme de la pierre, du fer, commencer à avoir des forgerons, ce genre de choses, et évoluer comme ça. Mmh. Alors, ce n'est pas une évolution à la civilisation, hein, tu ne vas pas changer d'air, changer d'époque, et passer à une époque futuriste. Non, tu restes sur ce village médiéval.
Ce que je préfère, moi, c'est ça que j'aime ouais, pas ouais. dans civilisation.
Voilà,
hein,
c'est ça.
Que ça part trop.
Non, là, c'est très concentré, et voilà, les plus grosses évolutions que tu vas faire, c'est découvrir le houblon pour pouvoir faire de la bière pour ta taverne, ce genre de choses.
Mais en fait, moi, ce que tu me dis si je me trompe, hein, moi, ce que je vois dans ce jeu, c'est que tu pars, enfin, c'est vraiment la construction d'une ville médiévale et d'un château en fait
ouais.
médiéval,
ouais.
Comme ça s'est fait au Moyen-Âge. Hein, j'ai l'impression que c'est assez correct historiquement. Donc c'est-à-dire qu'au début, bah, t'as trois pégus qui sont ensemble et puis au fur et à mesure, ça s'agrandit, ça fait un village et après il y a je sais pas, un seigneur qui vient s'installer là, ou en tout cas quelqu'un qui vient un peu parce que ça s'appelle Manor Lord en fait.
Ouais, ouais.
Et à un moment, tu fais un manoir,
voilà,
et
manoir.
À un moment, il y a une évolution du village où ça devient un quelque chose d'un peu plus important, et du coup, une petite ville ou quelque chose où il y a un délégué du voilà. pouvoir.
Exactement, voilà.
Voilà.
Et le Manor Lord, c'est toi, c'est-à-dire que tu vas construire ton manoir et tu as tout un système spécial pour ton manoir où tu vas faire des fortifications, tu vas rajouter des tours, des bâtiments secondaires, des genres de choses, et tu vas pouvoir ensuite incarner ton lord, le seigneur
ouais.
et explorer ton village à la troisième personne. Tu vas pouvoir te balader dans les rues, des trucs comme ça, dans la peau de ton seigneur. Quoi.
Donc le principe, c'est quand même que tu deviennes le seigneur du village.
Complètement.
Et il y a aussi tout cet aspect donc, militaire, mais qui est... Au départ, c'est une espèce de milice du village, en fait.
C'est une milice, c'est-à-dire que tu vas désigner des villageois pour être ta milice, en faire par exemple des piquiers ou des archers ou des trucs voilà. comme ça. Donc avec ta production de forges, de trucs comme ça, tu vas pouvoir leur fabriquer des armes, des boucliers, qui vont garder chez eux, et si jamais on est attaqué par des brigands ou par les armées des voisins, et bah tu peux les mobiliser pour qu'ils défendent le village.
Voilà. Mais ça aussi, ça correspond à la réalité, parce que au Moyen-Âge, à chaque fois qu'il y avait des installations de personnes, ils se faisaient attaquer par les autres à côté, ou
ouais,
quoi,
donc,
bon, voilà, quoi.
Ouais, t'avais intérêt à pouvoir te défendre. Ouais.
C'était assez instable, quand même, comme période, quoi. Ouais. Surtout, alors j'imagine que ça doit... Il te donne une date ou... J'ai pas vu ça.
Alors, il y a plusieurs. En fait, si tu veux, c'est assez fluide d'un point de vue niveau de difficulté. Quand tu crées ta partie au début, tu vas choisir ton niveau de difficulté. Tu peux choisir un niveau de difficulté où il n'y a pas du tout d'aspect militaire. Si tu veux vraiment faire du développement et faire ton village tranquillement sans t'embêter
avec
ça.
Non, mais je t'ai demandé s'il y avait une date.
Une date de...
S'il te donnait une date pour... Parce que ça, on va dire techniquement...
Une date pour quoi ?
À quelle époque se passe le jeu ? Parce que ça, techniquement, c'est plutôt au début du Moyen Âge.
J'avais pas compris la question, parce que dans la partie où je suis, il y a une date à laquelle ils vont t'attaquer. Donc je crois que tu parlais de ça, quoi.
Non. Non, il n'y a pas de date, c'est pas fixé dans le temps.
Exactement, à quelle époque ça se passe en 1500, machin. Non, je sais pas.
C'est pas en 1500, mais en 1200, là, en du 1600, coup, on est plutôt. 1900, ben, moi, je dirais plutôt.
1300. 540.
Bien beau. Là, je te dirais plutôt vraiment début du Moyen Âge, c'est-à-dire, je sais pas, 800-900, quoi.
Ouais, ok.
Quelque chose comme autour de l'an 1000, on va dire, un peu moins.
Non, j'ai pas l'impression.
Justement, où c'était assez instable et il n'y avait pas les mises en place des rois, des comtés, etc. Quoi.
J'ai pas l'impression qu'il te le situe dans le temps précisément, ni dans l'espace. Hein. Voilà, c'est une région qui. Voilà,
pas, ouais.
Ça a l'air vaguement européen vu de loin, mais c'est pas des endroits qui existent, quoi.
D'accord.
Non, date, voilà, j'en venais au truc militaire, c'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux de difficulté quand tu commences ta partie au début. Tu peux faire une partie où complètement sans aspect militaire si tu veux être tranquille et faire ton développement et essayer de t'habituer un petit peu au jeu. Et tu peux faire aussi un truc où tu as effectivement des comtés voisins avec des armées hostiles, mais qui ne vont pas t'attaquer. Tant que tu vas pas les attaquer toi, ils vont te laisser tranquille, mais quand tu es prêt à faire le côté militaire, tu peux y aller. Et là, par contre, ouais, tu vas avoir des pillards qui vont arriver au bout de la deuxième ou troisième année. Et là, t'es prévenu un an à l'avance que les pillards vont arriver, donc il faut que tu te prépares, quoi.
Ah putain, ils t'envoient une lettre.
Et ils t'envoient un fax. C'est pour ça que quand tu parles de date, moi je pensais à ça. Ouais, t'as la date à laquelle...
Ils t'envoient un fax. Bon, dans un an, on arrive, hein.
Le jeu est très beau, visuellement. Très beau, mais très moche, dans le sens où, voilà, on est dans un village médiéval. C'est réaliste. Alors, c'est... Bon, voilà. Il pleut souvent, ils sont dans la gadoue, ils sont sous la neige l'hiver, ils sont... C'est... Voilà, la vie est difficile.
Non, mais c'est sympa, quoi.
Ouais, mais
c'est la vie est difficile.
Sympa,
ouais.
C'est sympa, ça bouge bien, c'est pas mal. Manor Lords est également disponible sur le Game Pass. Hein, ça a été notre fournisseur de jeux cette semaine.
Ouais,
sur Game Pass PC uniquement. Hein. Ouais.
Ouais. Non, moi ce que je voulais dire, mais du coup maintenant ça me fait de la peine parce que si c'est un mec tout seul, le pauvre, je comprends mieux. je trouve que c'est déjà assez foufou qu'il ait fait ça tout seul. Donc maintenant ça me gêne de critiquer. Mais non, je trouve qu'il n'y a pas assez de tutos. T'es pas assez guidé en fait parce que souvent. On se retrouvait, enfin, tu te retrouvais à faire un truc et à devoir revenir en arrière pour, revenir en arrière. On va dire construire des choses que tu aurais dû construire avant.
Ouais. Alors voilà. c'est là qu'on revient sur l'utilité d'un early access. C'est-à-dire que le jeu n'est pas fini, il te l'annonce quand tu l'achètes, il te l'annonce quand tu le lances, il te dit voilà, il va y avoir des bugs, il va y avoir des trucs. Et c'est vrai que quand tu joues, bon, déjà le jeu en lui-même, alors il fonctionne, hein. Il fonctionne, mais il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de tuto, comme tu dis, c'est pas forcément clair, c'est pas forcément... Tu fais des actions, tu sais pas trop dans quel ordre les faire, tu vas... Là, bah, typiquement, l'exemple, c'est on a construit une taverne, on s'est dit, voilà, on va leur faire une taverne, comme ça, ils seront contents, parce que t'as un taux de satisfaction de tes villageois. Enfin, on va leur faire une taverne, ils seront contents, tu vois. Et en fait, la taverne, elle marche pas trop, parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin de bière à vendre dans la taverne. Donc
oui,
il faut du houblon.
Il faut que tu produises ta propre bière et donc il faut...
Donc il a fallu remonter à contre-courant l'arbre de progression en disant bon ben voilà, si je veux de la bière, qu'est-ce qu'il faut ? Ah bon, il faut du houblon. Alors si je veux du houblon, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut un champ.
De je sais pas quoi, il faut transformer le malt en bière.
Voilà, il faut faire le truc pour transformer le malt.
Et ça t'est arrivé, on va dire, sur tous les trucs que t'as fait quoi. Voilà. Voilà.
Donc c'est pas grave, on va faire des champs. Et là, quand tu fais des champs, tu peux avoir la carte de fertilité de ta région. Et tu te rends compte, ah bah la région n'est pas du tout fertile et c'est pas bon pour l'agriculture. Bref, voilà, tu te retrouves à trouver des trucs.
Et après, il y a aussi ce truc où tu peux faire au départ, en fait, quand tu fais des maisons de gens, tu peux faire un truc genre ils ont une chèvre dans le jardin ou un poulailler et du coup ils produisent des choses qui vont sur le marché du village.
C'est ça.
Et en fait, au bout d'un moment, tu peux leur faire produire des trucs, genre des armes ou des trucs plus...
En faire un forgeron, en faire un tailleur...
Ça te le dit pas.
Alors voilà, c'est ça.
Il y a écrit, tu peux finalement, le truc de ton jardin, tu peux le transformer en... Tu mets une enclume et puis voilà. Ouais. Mais en fait, ça te transforme complètement en forgeron, donc tu deviens artisan.
À temps plein, ouais.
Et du coup, ça t'enlève un habitant qui est... officiellement artisan, mais il t'a pas prévenu, quoi. Voilà. Tu vois, t'avais pas parce compris que, le truc.
Parce qu'en fait, il y a tous tes habitants. Y a pas des tonnes d'habitants dans ton village. Hein. Même si tu joues des heures, tu vas peut-être avoir une vingtaine, une trentaine de familles qui vivent dans ton village. Et en fait, tu vas vraiment micromanager qui est ce qui travaille où.
Oui.
Chaque habitant, chaque famille, en fait, tu vas lui attribuer un métier. Tu vas dire, bon, bah, toi, tu vas être le commerçant et tu vas tenir les shops pour faire des relations de commerce avec les voisins. Toi, tu vas travailler à la taverne, tu vas être tavernier et ta famille, c'est une famille de taverniers. Toi, c'est la famille de chasseurs, alors vous allez vous occuper de la baraque de chasse, vous allez poser des pièges et ramener de la viande et des trucs comme ça. Mmh. Donc chaque famille va avoir son métier. Et chaque famille va avoir sa maison. Et dans la maison, effectivement, comme tu dis, tu peux faire des ugrettes, tu peux dire, ben voilà, maintenant cette maison va devenir une forge. Mais du coup, si cette famille était déjà attribuée à la chasse, par exemple, ils deviennent forgerons à temps plein. Et du coup, tu n'as plus personne à la chasse.
Et moi, ce qui me gêne, alors pourquoi pas, ouais. Hein, mais ce qui me gêne, c'est que c'est pas du tout expliqué, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça. T'as le système n'est pas forcément mauvais.
Voilà, c'est ça.
Mais il n'est pas expliqué.
C'est pas expliqué, en fait. T'as un menu, je veux dire, t'as le choix entre mettre une poule dans le jardin et mettre une enclume. Et mettre une poule, bah, ça fait pas de toi un poulailler.
Ouais.
Mais par contre, mettre une enclume, ça fait de toi un forgeron.
Ouais.
Donc voilà, tu sais pas trop, quoi.
Alors c'est peut-être écrit, mais trop discret, tu vois, on l'a peut-être pas vu, mais c'est vrai qu'on s'est fait piéger. Ouais. Et du coup, voilà, et tu te retrouves finalement à avoir trop de bâtiments qui nécessitent de la main-d'œuvre, mais pas assez de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'il y ait des nouvelles familles qui emménagent. Et ça va pas très, très vite. Donc, il y a un problème de rythme. Tu vas te retrouver à passer des mois dans le jeu. Hein. Mais il y a des mois qui vont se passer sans que avec ton village qui est au point mort, parce que tu attends que des gens arrivent. Et donc, du coup, voilà, il y a un problème d'explication, il y a un problème de rythme. Mais tu sens que c'est un early... C'est des réglages, tu vois.
Mmh.
Et effectivement, on avait un dev qui était tout seul, qui faisait son jeu pendant 7 ans dans son coin. Après, voilà, il avait des testeurs, il avait quand même... Mais c'est là que l'early access va servir, parce que ça permet d'avoir un feedback de plein de monde pour lui, pour vraiment... ressentir où est-ce qu'il y a des faiblesses, où est-ce qu'il y a des lacunes. Parce que le tuto, par exemple, c'est le truc le plus dur à faire au monde, parce que quand tu bosses sur ton jeu pendant 7 ans tout seul, les mécaniques, tu les connais par cœur.
C'est ça.
Donc du coup, ça te paraît évident, et tu te rends pas compte qu'est-ce qui est pas forcément évident à quelqu'un.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est des réglages qui vont être pas mal. L'autre aspect de l'early access qui est pas mal, c'est que le jeu Manor Lords fait un carton.
Il va avoir de l'argent pour continuer. Ouais.
Exactement. C'était un des jeux les plus joués sur Steam cette semaine. Hein. Il était quatrième des jeux les plus joués sur Steam. Il en a vendu visiblement, vu le nombre de joueurs, bah, des centaines de milliers, immédiatement, malgré le fait qu'il soit gratuit sur le Game Pass. Gratuit sur Game Pass, ça veut dire qu'il avait aussi de l'argent qui rentre de Microsoft. Donc voilà, il a un influx d'argent qui va lui permettre de réinjecter dans le développement du jeu, d'engager du monde pour terminer le développement de ce truc. Parce que voilà, c'est un early access assez vite aussi, donc tu as ces problèmes de rythme dont on a parlé, de clarté, il y a quelques bugs. Moi, mon super manoir de seigneur de la région, j'ai essayé de le construire, il est construit sous terre. ça n'a pas trop marché. Donc c'est des bugs bêtes, hein, mais ça va être corrigé, c'est pas grave. Mais voilà, et aussi la progression, au bout d'un moment, la progression elle stoppe un petit peu, t'as plus trop d'axes de progression et tu as plus vraiment d'objectifs dans la façon dont tu vas à faire progresser ton village. Voilà. Mais sinon, c'est une base vraiment solide. Et voilà, et l'early access te permet vraiment de corriger ce genre de choses. Et il y a beaucoup d'early access qui sont très, très médiatisés en ce moment. La semaine dernière, on parlait de. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Le nom m'échappe. Le Diablo-like des développeurs de Ori.
Ah oui, machin. On y a joué en plus.
Ouais, on y a joué. On
le
en
truc
a parlé.
Avec les longs bras, là.
Avec les bras difformes.
On en a parlé. Enfin, non, moi, j'étais pas là.
Toi, t'étais pas là, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. J'ai le trou. Ça va me revenir.
Je sais pas.
Ça va me revenir dès que j'aurai. Charger le document de la semaine dernière où j'ai écrit les trucs. No Rest for the Wicked.
Voilà, lui aussi,
il est en early access. Et comme on a dit la semaine dernière, lui aussi, tu peux voir un petit peu de loin un potentiel, mais pour l'instant, il y a des problèmes de rythme. J'ai pas vraiment accroché au jeu de prime abord. Donc, à voir ce que ça donne. Et le troisième early access, lui, va arriver très bientôt, cette semaine, la semaine prochaine, en tout cas dans les jours qui viennent, c'est Hades 2.
Ouais, ouais.
Hades 2, actuellement, il est en train de terminer sa bêta technique. Ils vont enchaîner sur le Early Access. Et c'est un Early Access pour le premier Hades, ça avait cartonné parce qu'ils ont mmh. ils ont pu ajuster leur jeu comme il fallait. Et là, ça va être pareil pour celui-là. Donc c'est important. Alors, troisième jeu dont je voulais parler cette semaine. Alors là, c'est un petit peu particulier. Hein, vous n'allez pas pouvoir vous jeter dessus, ou alors uniquement pour les plus motivés. C'est Persona 5 The Phantom X, qui est le jeu mobile de Persona dans l'univers de Persona 5. Mm-hmm. C'est pas sorti chez nous en Occident. C'est uniquement en Asie. C'est un jeu mobile asiatique. Donc vous imaginez bien, pour jouer ici c'est un petit peu compliqué. Voilà, ceux qui veulent vraiment se pencher dessus, il y a des tutos en ligne pour installer une version PC, une version coréenne que tu peux traduire à l'arrache par une IA. Ça, techniquement ça fonctionne, hein, et ça, c'est ce que j'ai fait de mon côté parce que j'étais vraiment curieux de savoir ce que c'était comme jeu, c'était quoi la proposition de ce jeu là c'est un jeu qui va arriver en principe en Occident l'année prochaine. Mmh. Si je dis pas de bêtises, sur mobile et sur PC. Ouais. Pas de version console prévue pour l'instant, mais on sait jamais. C'est un gacha. Hein. C'est un gacha mobile, donc c'est voilà, les habitués de jeux comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail, vous n'allez pas être surpris. Et vous n'allez pas être surpris sur la structure du jeu parce que c'est exactement ça. Hein. Ouais. On est donc dans l'univers de Persona 5. On suit d'autres protagonistes, par contre, une autre histoire qui se passe en parallèle, au même moment que les événements de Persona 5. Même type d'histoire, hein, même dynamique avec le monde parallèle, le métavers que tu vas pouvoir explorer pour aller corriger les méchants adultes qui ont leur esprit corrompu. Mm. Voilà, scénario de Persona 5 classique. Mais adapté à un jeu mobile gacha, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire tes tirages pour récupérer des nouveaux personnages, pour récupérer des personnages qui vont rejoindre ton groupe, étoffer un petit peu ton groupe de perso et progresser comme ça, quoi. Le résultat est pas mal. Bon, il faudra voir la version, alors pas la version finale, mais la version occidentale qui marche bien et qui est plus claire. Là, je suis pas convaincu à 100%. Hein. Alors, c'est du Persona, donc il y a 4 bonnes heures de tuto et d'intro et de prologue avant d'être vraiment dans le vif du sujet. Mais après, voilà, le vif du sujet, c'est vraiment une structure qui rappelle, j'ai envie de dire, plutôt Honkai Star Rail plutôt que de Genshin. Hein, c'est vraiment Honkai Star Rail parce que l'exploration, c'est le même type d'exploration. Les combats, c'est le même type de combat. C'est du tour par tour. C'est du tour par tour qui va rappeler un petit peu les mécaniques de Persona 5, mais en simplifié pour marcher sur un jeu mobile. Et c'est pas mal, ça marche bien. Le scénario, ça fait un petit peu scénario... ça fait un peu fanfiction, tu vois. Tu sens que c'est écrit par quelqu'un qui veut copier le style et les thèmes de Persona 5.
D'accord. Ouais, moi c'est ça qui me fait un peu peur en fait sur ce jeu, parce que bon, en étant une grande fan de Genshin et de Honkai, les grandes forces de Genshin et de Honkai, c'est le scénario.
Ouais.
Et c'est ce qui se passe autour de du jeu, du gameplay, etc.
Ouais.
Et c'est grâce à ça qu'ils sont devant tout le monde, quoi. Hein. Donc, ouais, voilà. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu peur sur ce Persona. Si le scénario va pas et pas aussi bien.
Voilà. Et pour l'instant, je vais pas.
Ça va beauffer, quoi.
Pour l'instant, je vais pas juger l'écriture du jeu vu que.
Tu comprends à moitié.
Vu que je comprends rien et que je lis des textes traduits par des IA, c'est vraiment pas rendre service au truc. Donc vraiment. Pas de jugement sur la qualité de l'écriture, mais la qualité du scénario global, comme dit, c'est sans surprise. Mais pourquoi pas, hein. Après, voilà, c'est ça. Ensuite, tu vas faire des histoires à la Persona, tu vas explorer les mementos de Persona 5, tu vas faire ce même genre d'activité, tu vas te battre contre les mêmes personas que tu as dans le jeu. Donc c'est vraiment, visuellement, c'est très familier, tu vas retrouver les mêmes trucs. Il y a quelques nouvelles musiques pour ce jeu, mais sinon la plupart des musiques, c'est les musiques de Persona 5. Donc vraiment, on n'est pas perdu. Hein. Tu joues comme d'habitude un lycéen en deuxième année. Tu as l'environnement du lycée. Tu as beaucoup de fanservice dans le sens où tu vas pouvoir visiter les lieux de Persona 5.
Ouais.
Hein, tu vas à la ruelle avec le café, machin, avec la clinique du docteur Takemi, des trucs comme ça. Tu vas retrouver les mêmes trucs. Et du coup, voilà, il y a un côté... pas nostalgique parce que le jeu est pas si vieux que ça, mais un côté voilà familier qui fonctionne bien, mais voilà, ça fait un petit peu greffé, un truc greffé par dessus et voilà, donc à voir. Maintenant voilà, si vous avez déjà joué à Genshin et à Honkai, c'est exactement les mêmes mécaniques avec l'endurance qui va limiter le nombre de trucs que tu peux faire tous les jours, avec les tirages de personnages qui ont grosso modo les mêmes stats, les mêmes possibilités d'avoir des personnages 5 étoiles et des armes 5 étoiles et des trucs comme ça. C'est exactement la même chose. Alors c'est une formule qui marche, hein, donc c'est normal qu'ils essayent d'émuler ça, mais on va voir ce que ça donne.
Oui, c'est une formule qui s'adapte bien à Persona, je trouve. Hein, mais
bon. Ouais, complètement, ça marche. Hein.
Mais c'est vrai qu'après, voilà, si t'as pas un gros scénar derrière... Enfin, voilà quoi.
Voilà. Voilà. Après, comme dit, j'ai vu le début mal traduit, donc c'est pas vraiment facile de juger. Voilà. J'ai vu ce que c'était le jeu, ma curiosité ça répond à ma curiosité. Mmh. Maintenant, on va attendre que ça arrive. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Voilà les jeux pour cette semaine. On a continué aussi... on n'a pas eu ton avis sur Harold Halibut. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière tout seul.
Bah, je sais pas. Les deux. Moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien le rythme. Je trouve que moi, les jeux lents, ça me plaît.
Moi, je m'y attache de plus en plus à ce jeu.
C'est vrai.
Au début, j'ai eu un petit peu de mal. C'est vrai que le rythme est extrêmement lent
de
Harold Halibut. Le rythme est extrêmement lent, mais je m'attache au personnage, je m'attache à l'ambiance. Une fois que tu es dedans et que tu sais à quoi t'attendre.
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai un avis qui est plutôt en train de remonter. Mmh. Toi, je sais pas si c'est pas l'inverse, si ton avis est pas en train de descendre avec le temps. Mais
j'étais un peu plus enthousiaste au début, je crois.
Ouais.
Mais non, mais ça va, ça reste bien, mais au début moi c'est un truc qui me parlait parce que bon, ça se passe sous l'eau, donc c'est bon, c'est
toi, voilà, ça te plaît sous l'eau.
Direct quoi, ça va. Mais voilà, il y avait quand même un mystère, un truc, et du coup, je pensais que ça allait vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui se passe sur un truc un peu plus...
Là voilà. on a atteint le gros tournant du scénario quand même. Hein.
Oui, on a atteint le gros tournant du scénario. Mais bon, mais en fait, voilà, c'est plus... on reste vraiment sur un rythme très très lent et sur un attachement à ce personnage de Harold Halibut qui est ce qu'il est, mais qui est super attachant, quoi. Donc,
ah, complètement. Il est très très attachant.
Hein. Il est très très attachant, mais putain... pas inventer l'eau chaude, hein. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau en fait.
Harold, mais... il a ce côté de tout le monde lui parle mal, mais il le sait très bien et c'est pas grave.
C'est ça.
Tu vois,
Non, il a une espèce de naïveté qui est pure en fait. Donc voilà, c'est un super personnage, mais si tu veux, je m'attendais pas à ça. Enfin, si, je m'attendais à ça, mais bon, bref, non, ça reste bien quand même, c'est pas. Je suis pas spécialement déçue, mais c'est vrai que bon, ça reste beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'histoires quand même de la vie de ce truc-là, qui si c'est pas forcément super palpitant, hein, c'est des gens qui sont bloqués dans un vaisseau depuis des générations, donc je veux dire, ils s'emmerdent quoi, hein, à part s'emmerder, ils font pas grand-chose de plus, hein, on est d'accord, donc voilà, mais c'est charmant, quoi.
C'est charmant, voilà, tu t'attaches à tous ces personnages. Mmh. Il n'y en a pas des tonnes, hein, tu vas croiser peut-être... C'est un casting d'une dizaine de persos, quoi.
C'est ça, ouais.
Pas plus, hein, mais ils ont tous leur caractère, ils sont tous attachants.
Non, mais c'est super, c'est vraiment bien. Hein. Non, franchement, ça va. Hein.
Ouais. C'est très charmant aussi, Harold Halibut. Également sur le game, beaucoup de Game Pass, hein. Sponso, merci Phil.
Merci Xbox.
Cette semaine. Voilà pour les jeux de cette semaine. Aza, est-ce que tu veux qu'on passe à l'actu?
L'actu qu'on va commencer par des corrections.
Ah ben bah oui, t'as dit n'importe quoi
j'ai
la
dit
semaine
n'importe
dernière.
Quoi. J'ai parlé de Far Cry 7 la semaine dernière.
Mais t'as complètement fumé.
J'ai complètement fumé, je suis désolé, je me suis laissé emporter. Non mais alors disons...
Mais comment ça Far Cry 7? Qui c'est qui t'a dit ça?
Il
y a un mec
Yves.
De chez Ubisoft qui t'a appelé, qui t'a dit oh, au fait, on va faire Far Cry 7.
Salut, c'est Yves et on fait Far Cry 7. Ce à quoi j'ai répondu, mais je sais. Ça m'étonne pas. Hein, c'est... Non, ouais, alors
en fait,
Far Cry 7.
Non,
il y a des, voilà, il y a des rumeurs comme quoi, il y a des rumeurs plutôt crédibles et plutôt confirmées comme quoi Far Cry 7 allait être révélé très bientôt. Sans doute pour une sortie l'année prochaine, hein, mais voilà, okay. Un reveal très bientôt. Ça se dirige sans doute pour un bon gros trailer pendant le Ubi Forward à l'époque de l'E3, le mois prochain. Parce que
d'accord.
C'est dans un mois.
C'est
hein,
dans
ça,
pas longtemps.
Ouais,
ouais.
C'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc ça... Et voilà. Et c'est un liqueur français qui avait sorti cette rumeur. Hein, et généralement il tombe juste, hein, il était tombé très juste tout autour de ce qui se passait autour d'Assassin's Creed Mirage, donc il est plutôt crédible en ce qui concerne Ubisoft. Et en fait, comme c'est la mode, il a essayé de révéler ça, mais de façon cryptique et mystérieuse avec une série d'images qui fait qu'on a tous compris que c'était Far Cry 7. Mais il y avait aussi une image, une photo de Cillian Murphy.
Ouais.
Donc, tout le monde a dit ah cool, il y aura Cillian Murphy dans Far Cry 7.
Cillian Murphy.
Cillian ou Cillian, t'es sûr?
Bah, c'est un C.
C'est un C, je sais pas comment il prononce.
Normalement, ça se prononce Cillian. Hein.
Si tu nous
je ne sais pas. Hein.
Si tu nous écoutes, n'hésite pas.
Normalement, Cillian, c'est un K. Hein.
Ouais. Bref, Monsieur Murphy. Et on s'est dit, tiens, ça veut dire qu'il sera dans Far Cry 7, hein, parce que Far Cry, ils ont l'habitude de mettre une star en tête d'affiche. Ils avaient mis Giancarlo Esposito dans le 6 et tout.
Ouais.
Mais voilà, la réflexion que j'avais la semaine dernière, c'était quand même Murphy, il est oscarisé maintenant. C'est un autre niveau, depuis Oppenheimer, c'est pas pareil.
C'est pas n'importe qui, ouais.
Alors bon, si le jeu est en développement depuis longtemps, ils ont pu tourner ces scènes avant qu'il soit vraiment catapulté en superstar qu'il est devenu maintenant.
Bah, il a toujours été quand même.
Mais il a toujours été quand même au niveau. Mais bon. Donc il sera pas dans le jeu, hein. C'est corrigé.
Et du coup, qu'est-ce qu'il foutait sur la...
Ben c'est ça, on lui dit mais qu'est-ce que tu fous mec. Et le leaker il fait ah oui non mais c'était j'ai mis une photo de lui mais ça veut pas dire qu'il sera dans le jeu, c'est la photo, elle veut dire autre chose.
D'accord, elle veut dire quoi?
Je sais pas.
Mais attends, mais j'ai vu un truc avec Cillian Murphy cette semaine passer sur mes news à la con là.
Oppenheimer?
Non, un truc genre il va faire autre chose.
Ouais, Far Cry, mais c'est faux. Hein.
Non, mais c'est pas Far Cry.
Donc voilà, la correction, c'est qu'il sera pas dans Far Cry.
C'était les news Google, je sais pas quoi là. Donc,
Et alors, ils ont le droit de parler de Far Cry sur Google. Hein.
Non, mais ils parlaient pas de Far Cry, ils parlaient de Cillian Murphy.
Alors, actualité. Ah oui, bah, il sera dans. Il est confirmé de reprendre son rôle dans 28 jours plus tard.
Ah oui! C'est ça?
Ouais, parce qu'ils ont. Un des premiers rôles, une des premières fois qu'on l'a vu, ce mec, c'était dans 28 jours plus tard.
Hein,
et c'était vachement bien, 28 jours plus tard. Ils avaient fait une suite qui était correcte, hein, 28 semaines plus tard. Et c'était il y a longtemps, ces films. C'était il y a tellement longtemps que maintenant, ils font 28 ans plus tard. Et dans 28 ans plus tard, il reprend son rôle, visiblement.
D'accord.
Donc, c'est
très bien.
Ça va être marrant. Il devrait reprendre son rôle. Alors, comment on prononce son nom? Est-ce que j'arrive à avoir l'info? Cillian, ouais, c'est avec un K. Hein,
C'est avec un K?
Ouais, ouais.
Ah ben, pardon, alors.
Alors, est-ce que j'arrive à faire ça? Je sais pas si on va l'entendre sur le truc. Non, j'arrive pas à... Si, j'arrive à... Non, j'arrive pas à le lire. Désolé, j'arrive pas à faire l'audio, mais c'est avec un K.
C'est avec un K, ouais. Alors. D'accord. Et il est de quelle origine, du coup?
Irlandais, hein. Ah non, lui,
irlandais,
voilà. Il est ultra irlandais.
Non, mais je sais, mais... Enfin, je sais. C'était Irlande ou Écosse, quoi.
Il y a une interview avec lui assez célèbre où le mec il interview qui dit oui vous êtes anglais, non irlandais, et le mec il insiste et t'as l'impression qu'il va le frapper quoi.
Mais il est Irlande du Nord ou Irlande d'Irlande?
Alors il est né le 25 mai 1976 à Douglas en Irlande, je sais pas où c'est Douglas, et c'est un acteur et musicien irlandais. Il a commencé sa carrière en tant que musicien de rock.
Oui, il doit être irlandais.
Putain, j'aimerais bien écouter ce qu'il fait. Bref, il sera pas dans Far Cry, c'était ça la news. Embracer.
Donc le C en irlandais, ça se prononce K.
Celui-là en particulier, je pense, ouais. Embracer.
Ouais, mais c'est bah, alors, ils n'ont pas explosé.
Bah, et alors, merci Asa, je suis content que tu présentes les choses comme ça. Embracer a explosé en 3 morceaux.
Ah, c'est vrai ?
Embracer a annoncé cette semaine son projet de...
De se diviser en 3.
De diviser, de diviser cette, cette entreprise qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grosse en 3 entreprises indépendantes.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est la suite du truc. Donc voilà, Embracer va être divisé en 3 entreprises complètement indépendantes qui seront listées en bourse de façon complètement indépendante, qui n'auront aucun lien financier entre eux. Les 3 entreprises seront Asmodee Group, qui va reprendre donc la marque Asmodee et qui va sans doute se concentrer sur tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, parce que c'est un petit peu la marque du truc. Coffee Stain and Friends.
Ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
On va en parler. Et Middle Earth Enterprise and Friends.
Donc Middle Earth, c'est Seigneur des Anneaux.
C'est ça, c'est ça. Donc voilà, 3 entreprises, Asmodee Group, Coffee Stain and Friends et Middle Earth Enterprise and Friends. Alors je ne sais pas pourquoi and Friends à chaque fois, mais...
Bah parce qu'ils ont des copains. Bah
oui, bah, heureusement qu'ils l'écrivent, parce que sinon personne ne les croit.
c'est pour ça qu'ils
Donc qu'est-ce que c'est ? Alors Middle Earth Enterprise and Friends, c'est eux qui vont s'occuper de leur plus gros projet, leur plus gros studio, leur plus grosse marque. Ça inclut donc évidemment tout ce qui tourne autour du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu. Et ça inclut également des gros développeurs de jeux vidéo comme Crystal Dynamics avec Tomb Raider, Eidos Montréal, Gardien de la Galaxie et Deus Ex, Foray Games qui est donc Metro, PlayOn, Deep Silver, Dead Island 2, Warhorse, qui est le développeur de Kingdom Come Deliverance 2, Tripwire, Flying Wild Dog, Vertigo Games et Freemode. Donc ça, c'est Middle Earth Enterprise. À côté, on a Coffee Stain qui va plutôt faire Coffee Stain and Friends, qui est plutôt orienté sur l'indépendant, sur le mobile, sur le free to play, sur le jeu service.
D'accord.
Avec donc Coffee Stain qui est le studio de God Simulator et de Valheim, Ghost Ship Games, Deep Rock Galactic, Tarsier qui est le développeur de Little Nightmares et tous les développeurs free to play enfin. En fait. Et donc Asmodee, hein, comme dit Asmodee, c'est plutôt les jeux physiques, les jeux de plateau, avec des marques comme Catan, Exploding Kittens. Et...
Est-ce que le morceau Middle Earth and Friends, il est pas énorme comparé aux deux autres hein ?
Il est énorme par rapport aux deux autres. Voilà.
Bah, quel est l'intérêt de faire ça alors ?
Écoute, c'est plus logique d'avoir effectivement donc 3 sociétés qui ont des objectifs et des ambitions différentes.
Je sais pas moi, en plus si ça s'appelle Middle Earth, on dirait que c'est que pour le Seigneur des Anneaux.
Ah,
les
noms sont à chier.
Et en fait, il y a tous les jeux vidéo dedans, quoi, c'est complètement con. Enfin, je sais pas, c'est pas pareil, quoi.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est une logique bizarre, tu vois. Tu vas lancer ton jeu, et tu vas avoir un gros logo Middle Earth Enterprise, et tu vas appuyer sur Start, et en fait, c'est Tomb Raider.
Ouais, c'est ça, donc, c'est bizarre.
T'as une logique qui est un petit peu étrange. Mmh. Mais bon, voilà, de toute façon, Embracer, ça, il change tellement d'avis et d'organisation toutes les 5 minutes que on ne sait pas si ça va durer, si ça va tenir, si ça va avoir une utilité pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est la nouvelle organisation. Donc, Embracer n'existe plus techniquement.
D'accord.
Voilà. Après, comme dit, ça ne change pas grand-chose. Hein. Le patron d'Embracer, Lars, je ne sais plus comment il s'appelle ce mec.
Quelque chose sonne.
Il y a des chances. il devient le patron CEO des 3 entreprises. Hein.
Ah oui, donc c'est nul en fait.
Donc voilà, c'est vraiment juste une organisation administrative. Après, c'est.
Bah, mais ça n'a aucun intérêt. Alors pourquoi ils disent que c'est indépendant ? C'est pas indépendant si c'est le CEO des 3.
Oui, mais chaque entreprise a son compte en banque différent, indépendant, tu vois. Donc c'est...
Bah oui, mais tu mets un CEO indépendant pour chaque entreprise alors.
Mais comme ça, il peut avoir 3 salaires.
Mais n'importe quoi, putain.
Non, je sais pas.
Bah oui, oui, non, mais oui.
Mais je pense que oui.
Non, mais bien sûr, c'est ça la logique. Mais bon, je veux dire, ça va pas régler leurs problèmes, quoi.
Je sais pas si ça va régler leurs problèmes, on est bien d'accord.
Là, c'est mal barré.
On est bien d'accord. Asa, les dernières nouvelles de la Nintendo Switch 2 sont arrivées, les dernières rumeurs, les rumeurs les plus
incroyables.
Attends,
on va faire Julien Chiez.
Ah, il faut. Ouais, si on n'a pas de version YouTube de ces épisodes, mais sinon, on mettrait nos têtes à Uri.
La Nintendo Switch 2 elle arrive.
Une Switch magnétique. Trois points d'interrogation. Oui, parce que d'après les fuites.
Magnétique,
c'est-à-dire. Elle est magnétique. Voilà. Mais justement, il faut que tu cliques sur la vidéo pour savoir ce que ça veut dire. Et je t'explique ce que ça veut dire à partir de la 47e minute seulement. Magnétique. Alors. Les Joy-Con vont s'accrocher de côté de façon magnétique, en fait.
Ah, chlouk.
Ouais, voilà. Alors, il n'y a plus trop de suspense. Hein. On est vraiment sur une Switch 2, sur une évolution linéaire de la Switch.
Attends, c'est-à-dire comme ça. Et les trucs,
ça va être aimanté et ça va.
Mais ça va jamais tenir.
Non, mais avec des électro-aimants, pas des éléments, pas juste magnétiques. Électro-aimants, c'est solide.
Attends, quand tu secoues ta Switch comme ça.
Non, c'est les mêmes choses, c'est les portes qui ferment de façon magnétique, des trucs comme ça. Non, quand c'est attaché, c'est attaché. Et t'auras un bouton pour le relâcher l'aimant. Et
ok, porte magnétique, je les défonce, moi, il est où le problème?
Oui, la Switch de...
Non, mais je sais pas que j'aurais pas confiance, moi. Ben, j'ai pas du tout confiance. Hein.
Écoute.
Et on va le tester. Hein. Envoyez-nous une Switch 2, monsieur Nintendo. On va voir s'ils tiennent vos Joy-Con aimantés de merde, là.
Non, Mario, n'écoute pas. Non, mais c'est vrai, quand la console sortira, on en achètera deux, une pour jouer et une pour la détruire. Et
Non, mais je sais pas, c'est pas logique, ça doit se décliner. Je sais pas, moi.
Donc, ça sera la fixation des Joy-Con se fera latéralement de part et d'autre de l'écran de la Switch grâce à des électro-aimants. Donc.
N'importe
ça,
quoi.
Je peux te garantir que ça ne bougera pas.
Ouais, bah on va voir. Hein. Au bout de 2 ans d'utilisation, on va voir combien il y en a qui retournent au SAV. Quoi.
Quand il n'y a plus de batterie.
Ah, parce que ça marche à l'électricité.
Ah oui, électro-aimant, oui.
Ah oui, c'est-à-dire logique. Que...
Non, mais c'est bien, tu es en train de jouer sur ta Switch, tu tiens le Joy-Con, et puis si l'écran il tombe, c'est que tu n'as plus de batterie. Au moins c'est clair. Quoi.
Ah voilà, tu vois. Et pourquoi tu te moques de moi alors?
Parce que c'est drôle.
Pourquoi tu te moques de moi quand
non,
j'ai
non, alors,
raison
c'est les fuites qui viennent...
C'est chiant, ça.
C'est des fuites qui viennent des fabricants d'accessoires. Hein. C'est souvent, avant les sorties des consoles, c'est souvent une bonne source de fuite. Les fabricants d'accessoires qui ont déjà reçu pas mal de spécificités physiques de la console pour pouvoir fabriquer des accessoires et prévoir la fabrication d'accessoires à la bonne taille et avec les bons paramètres. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? La console sera un petit peu plus grande que la Switch, puisque l'écran sera un petit peu plus grand. L'écran aura une meilleure résolution. Ça sera un écran à 1080p contre un écran à 720 pour la Switch actuelle. On est sur du LCD. Hein. Effectivement, on sera plus sur du OLED.
Ouais, c'est nul, ça.
C'est super nul. Alors moi, très égoïstement, je m'en fous parce que je joue très peu en portable à la Switch.
Ah, moi, j'en ai rien à foutre de la Switch de base. Hein.
Je balance sur la télé. Donc, mais voilà. C'est dommage de redescendre du OLED vers le LCD. Dommage, ouais. C'est dommage, surtout que ça veut dire que 4 ans plus tard, ils vont te vendre une Switch de OLED.
Ah ben ça, c'est pour te niquer.
On va pas y couper. Il y aura une compatibilité, c'est plus ou moins confirmé a priori. Alors déjà, compatibilité avec les accessoires que tu as déjà. Hein. Par exemple, si tu as une manette pro pour ta Switch, tu pourras la connecter à ta Switch 2. Malgré le fait que visiblement, il y aura des boutons en plus, au moins un bouton en plus sur chaque Joy-Con. Apparemment. À quoi il va servir, on verra.
Oui, mais les Joy-Con, enfin, tu pourras la manette, d'accord.
Ouais.
Mais les Joy-Con, les autres, ils sont pas électro, mes couilles. Hein, tu pourras pas les mettre.
Alors, tu pourras t'en servir déconnecté quand ta manette, quand ta Switch est sur la télé et que tu gardes tes Joy-Con en main. Mais oui, non, tu ne pourras pas les brancher dessus parce que effectivement, la taille de la console sera pas la même. Et effectivement, on n'est plus sur les espèces de petits rails pourris. On sera sur ces aimants. Donc ça sera.
Pourri.
Ça sera, bon, on ne sait pas encore si c'est
pourri. Pas des rails pourris, c'est des aimants pourris.
Le trépied derrière qui se déplie, il est un petit peu plus robuste.
Un trépied qui se déplie.
Ouais, il y a un petit. Alors actuellement, c'est une espèce de petite languette en plastique. T'as pas confiance.
Ah oui.
Tu peux, voilà, mais là.
Ah, celui-là aussi, hein.
Donc compatibilité. Tu auras donc un slot pour mettre les cartouches. C'est pas des cartouches techniquement, mais bref, pour mettre les cartouches
de la Switch. Ouais.
Les cartouches, on va les appeler comme ça. Tu vas pouvoir mettre dedans les cartouches
de
la Switch normale.
Ouais.
Mais à l'inverse, il y a un petit détrompeur qui fait que tu vas pas pouvoir prendre des cartouches Switch 2 pour les mettre dans la Switch 1.
Oh, c'est méchant, ça.
Bah, c'est méchant, mais ça peut pas marcher de toute façon. C'est pas...
Bah, on s'en fout, de toute façon.
Bref, on se rapproche d'un reveal de cette console. Hein. Je pense qu'on ne verra rien avant la fin de l'année, s'il prévoit de la sortir en 2025.
Ah ben oui, je suis d'accord.
Voilà.
On n'est pas loin d'un reveal, mais en fait, on est loin d'un reveal, finalement.
Loin et pas loin à la fois. Après, on ne sait pas.
Je ne sais pas, tu m'as dit Far Cry 7, c'est la semaine prochaine.
Non,
c'est plus loin que ça, du coup.
Mais il ne sera pas... Je n'ai pas dit que ça serait sur Switch 2. Ou alors peut-être que la photo de Cillian Murphy, ça veut dire...
C'est lui qui joue Mario dans le prochain...
C'est lui qui joue. Il joue Luigi. Avec un accent irlandais. Résultats financiers pour Microsoft, des résultats financiers plutôt excellents. Hein,
c'est bien.
Tout à fait. Des revenus qui ont grimpé à 1,8 milliard de dollars, une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente. C'est assez foufou.
Mais sérieux, comment ils ont fait?
Ah, mais attends, si on enlève Activision Blizzard, oui, c'est voilà. En baisse, en fait.
Ouais, voilà, je me disais, il y a un truc qui va pas, là.
Non, voilà, en fait, c'est une arnaque.
Bah, ils n'ont pas sorti de jeu, donc...
Si, alors, c'est résultat financier l'année dernière, ils ont sorti Starfield...
Oui, non, mais ça, c'est pas un jeu, Starfield.
Donc, ouais, non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils révèlent donc des résultats financiers ultra positifs, mais ce qu'il faut analyser un petit peu, c'est que c'est des résultats financiers qui incluent les chiffres d'Activision Blizzard, qu'il faut, en principe, si tu veux vraiment comparer ce qui est comparable, comparer 100, et à ce moment-là, si tu compares 100 Activision Blizzard, c'est une baisse un peu dans tous les domaines. Hein. Les revenus de la division gaming sont en baisse, les ventes de logiciels sont en baisse, les ventes de consoles sont en baisse, sont en chute libre même. C'est pas des bons résultats pour
Microsoft. Oui, mais ça, c'est normal.
C'est normal. Alors, c'est normal dans le sens...
Ça y est, elle est sortie, la console, depuis plusieurs années.
Donc. Ouais, mais bon, il faudrait les vendre, hein, tu vois. Je veux dire, PlayStation, ils en vendent. Hein,
Ça baisse pas, hein, les PlayStation ?
Ça... Non, c'est stable. C'est stable, alors que là, on a une baisse de 31%.
Ah d'accord, quand même.
Non, PlayStation, ils arrivent à stabiliser parce qu'ils ont un catalogue de jeux qui sortent et tu vois, ça va intéresser des gens et régulièrement, il y a des gens qui vont acheter des trucs.
C'est ça, il n'y a pas assez de jeux chez Microsoft.
Je veux dire, ne serait-ce que cette année, entre Helldivers qui a fait énormément de pubs, ça, ils ont vendu des consoles avec ça.
Avec Helldivers, ils ont vendu des consoles.
Final Fantasy VII Rebirth, mais même si on revient sur 2023, il y a eu des sorties de jeux, que ce soit Spider-Man, des trucs comme ça.
Oui, bon, non, mais 2023, oui, ça, on est d'accord.
Ils ont des jeux vendeurs. Ouais. Alors que Activision...
Microsoft,
pardon.
Non, ils ont pas de jeux vendeurs. Ils ont tenté Starfield, ça n'a pas marché.
Alors, on peut critiquer Starfield du matin au soir, il n'y a pas de problème, mais c'est un jeu qui s'est très bien vendu, mais pas au point de vendre des consoles derrière et de redynamiser un petit peu la Xbox.
Bah, c'est ça, Starfield s'est très bien vendu parce que les gens, ils avaient envie de Starfield, mais ça ne s'est pas bien vendu au point de vendre des consoles parce que c'est un jeu de merde.
Il y a un petit peu de ça.
C'est ça le problème.
Alors, voilà. Donc,
si ça avait été un excellent jeu, ils en auraient vendu encore plus et ils auraient vendu des consoles avec.
Et là, il n'y a pas de surprise. Hein, je veux dire, quand Microsoft décide il y a quelques mois de commencer à sortir des jeux sur PlayStation et sur Switch,
oui, voilà,
c'est parce qu'il faut augmenter les sources de revenus de toutes les manières possibles. Hein, et donc ça, c'est une réponse à ça. Voilà. Et également, l'axe de croissance que va avoir Microsoft, on l'a compris, c'est des acquisitions. Tu vois, c'est la croissance qu'ils ont eue cette année, c'est grâce à l'acquisition d'Activision Blizzard.
Ouais.
Et techniquement, c'est de la croissance. Ça leur permet de dire oui, on a des revenus en croissance.
Ouais, mais ils ont claqué 70 milliards.
Ouais, ça s'appelle de l'investissement. Ils ont le droit d'investir pour augmenter leurs revenus.
Oui, mais...
Alors, voilà, c'est sur le
long
terme. Ils ne sont
pas rentrés dans leurs sous encore. Hein.
Pas encore, mais voilà, on peut espérer que ça arrive. En tout cas, ils misent là-dessus. Voilà, hein. Voilà. Après, il y a très peu de mentions du Game Pass dans ces résultats. Hein. On ne sait pas s'il y a eu une augmentation des abonnés, des trucs comme ça. Le Game Pass qui... Alors, on en a beaucoup parlé cette semaine, hein, mais si on regarde de façon globale et générale, le Game Pass est un petit peu en perte de régime. De plus en plus rare qu'il y ait des gros jeux et des jeux vraiment intéressants qui arrivent sur le Game Pass. Chaque mois, même tous les 15 jours, ils annoncent les nouvelles vagues de sortie. De temps en temps, il y a un petit jeu sympa, mais c'est pas toujours
c'est pas la fête du slip, quoi.
C'est pas ce que c'était les premières années, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc c'est un petit peu... Alors, ils ont quand même des bonnes choses qui arrivent, Microsoft, hein, on en a parlé la semaine dernière, on en reparle un petit peu, Fallout cartonne en ce moment.
Bah, évidemment. Oui.
Évidemment, les conséquences de la série se font ressentir, ça fait des cartons. Fallout New Vegas a eu 1 million de joueurs en 24 heures cette semaine, donc c'était assez dingue. Et là, cette semaine, ils ont sorti enfin un truc qui était annoncé depuis des années, le patch nouvelle génération de Fallout 4. Donc un patch qui permet de passer Fallout 4 et sur les nouvelles consoles et d'exploiter les capacités des nouvelles consoles avec des taux de rafraîchissement meilleurs, des résolutions qui sont meilleures, bref, que ça tourne mieux sur nos consoles actuelles. Bien entendu, ça ne fonctionne pas du tout, c'est plein de bugs, parce que c'est Bethesda, hein, faut pas...
Tain, ils sont lourds quand même. Hein.
C'est fatigant. C'est fatigant. Alors ça va s'ajuster, ils vont corriger, c'est comme toujours, hein, mais bon, voilà.
Mais ils peuvent pas arriver à sortir un truc qui soit pas de la merde.
Un truc qui marche de base.
C'est chaud, quoi.
De base, parce que... voilà, il y a plein de trucs... cette version devait rendre, par exemple, même sur PC, cette version devait rendre enfin Fallout 4 compatible avec le Steam Deck. D'ailleurs, ils ont même la petite coche compatible Steam Deck vérifié, des trucs comme ça. Le jeu ne marche pas du tout sur Steam Deck, ça ne fonctionne pas. Ils ont des problèmes de rafraîchissement qui ont jamais été corrigés. Ça a rajouté des nouveaux bugs et ça a évidemment cassé la compatibilité de tous les modes. Donc ouais, pour l'instant c'est une catastrophe qu'ils sont en train de corriger au fur et à mesure, mais ça marche pas comme ça devrait marcher, quoi.
Ouais, mais c'était pas la peine de le sortir si ça marchait pas à ce point, quoi. Ils l'ont bien testé avant, ils savaient bien que ça marchait pas en le sortant.
Ouais, mais bon, là ils ont essayé de surfer sur la vague de la série, tu vois.
Ouais, mais bon, après, ce qu'on disait aussi par rapport à la série, c'est que ça a fait une forte augmentation sur Fallout 76.
Sur tous les Fallout, hein, en fait, si tu veux.
Non, mais Fallout 76, qui était une catastrophe à sa sortie, maintenant, tu m'as dit, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça ramène des gens sur un jeu qui est plutôt pas mal. Ça, donc, voilà. Bouche à oreille, ça...
Exactement. Fallout 76, cool, ça, ils s'en sortent plutôt bien. Parce que 76, c'est pas mal depuis un petit moment, maintenant. Ça fait... ils ont sorti extension sur extension sur extension.
Oui, mais bon, c'était un peu mort, quoi.
Mais c'était un peu mort. Alors que le jeu était cool, mais ils n'arrivaient pas à convaincre les gens. C'est revenez tester, revenez. La série a convaincu les gens revenir tester. Et là, du coup, il y a eu un afflux assez...
Ouais, ça va, cool, quoi. Ça va être cool pour...
Mais voilà, ce patch très attendu par les fans de Fallout 4 est pour l'instant décevant. À voir, hein, ils vont corriger, comme ils font toujours, hein, tu vois. Mais Bethesda, c'est faut toujours venir un an plus tard, quoi.
C'est chiant.
Et j'ai hâte de voir ce que sera Starfield dans 2 ou 3 ans, tu vois. Ça va peut-être être cool, mais il y a un décalage.
Ouais, on n'a pas le temps, quoi.
Il y a un décalage qui fait que... Et je pense que, voilà, Todd Howard a été interviewé à multiples reprises là, ces dernières semaines, suite à Fallout, forcément. Et là, des questions, c'est « Et alors, un nouveau Fallout, Fallout 5, machin ?»
Calmez-vous.
Et il dit « Oui, pas tout de suite, notre prochain projet, c'est Elder Scrolls, machin. » Donc voilà, si tu commences à faire des maths, si c'est eux qui...
Le prochain Fallout, c'est dans 20 ans, hein.
Bah, pas loin, je pense que t'es pas loin de la vérité. Si c'est eux qui le font... Parce que là, ce qui doit les vexer profondément, c'est que Fallout est très à la mode, et tout le monde se dit « Ah oui, Fallout, c'est pas mal, j'aimerais bien jouer un Fallout et tout. Et c'est quoi le meilleur Fallout ?»
Fallout New Vegas.
Et tout le monde répond « C'est Fallout New Vegas, le meilleur, c'est le meilleur scénario, c'est les meilleures mécaniques, c'est les meilleurs trucs. C'est également le seul Fallout qui n'a pas été fait par Bethesda. »
C'est ça.
Donc ça, c'est super vexant.
C'est qui l'a fait, ce Fallout ?
Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qui l'a fait ? C'est Obsidian.
Ah oui, Obsidian, c'est Obsidian, aussi Microsoft qui est devenu, qui a fait The Outer Worlds,
qui sort Avowed là dans pas longtemps, qui fait ce type de RPG, tu vois, et c'est eux qui avaient fait New Vegas.
Ouais, ils ont qu'à leur filer Microsoft, ils ont qu'à leur filer le prochain Fallout, franchement.
Et je pense que la décision, ça va être ça à un moment donné. Microsoft, qui est maintenant propriétaire de la licence, ils vont dire bon, maintenant on se calme le cul, vous pouvez pas tout faire chez Bethesda, vous avez vos temps de développement, c'est normal, concentrez-vous sur Elder Scrolls. Par contre, il nous faut un Fallout rapidement et ça va être un autre studio qui va le faire.
Je pense que c'est la meilleure décision.
C'est la décision évidente, tu vois. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas, je sais pas. Mais
puis en plus,
mais ça paraît évident.
Au vu de la qualité de ce qui est sorti par Bethesda récemment, bon, au bout d'un moment, il faut quand même un peu les voilà. Punir, entre guillemets, quoi.
Et t'es pas obligé d'appeler ça Fallout 5, tu vois. Tu peux appeler ça New Vegas 2, par exemple.
Oui, ce que tu veux. Voilà. Hein,
surtout que... Alors... Je veux pas spoiler la série, c'est un petit détail, mais New Vegas va faire partie du scénario de la saison 2 de la série, tu vois. Donc,
visiblement,
la ville de Vegas va être à la mode.
C'est ça. Bah ouais, peut-être, ça peut être intéressant de revitaliser ça. Ils vont peut-être faire un New Vegas 2, ouais.
Ça peut être intéressant. Et si tu veux faire la théorie du complot jusqu'au bout, et j'aime bien faire la théorie du complot jusqu'au bout.
Bah, alors attends, quand je veux faire celle de Djokovic, ça te fait rigoler?
Oui, mais là, c'est des jeux vidéo, c'est beaucoup plus drôle. Théorie du complot dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'il y a un tease de Vegas à la fin de la saison de la série? Parce que le jeu est déjà en développement.
D'accord.
Peut y avoir, ça peut fonctionner dans l'autre sens, tu vois. À voir, hein. À voir, ça peut être intéressant. Capcom a des résultats financiers bien meilleurs. Eux, par contre, c'est une vraie progression, une vraie hausse et une vraie croissance. Merci à tous les projets qui se passent bien chez Capcom. Hein. Street Fighter VI, c'est beaucoup plus vendu que ce qu'ils espéraient. Dragon's Dogma 2, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vendu que ce qu'ils espéraient. Tout ça au milieu de cartons habituels, hein. Les Resident Evil, ça continue à très bien marcher. Dragon Quest, tout ce qu'ils font, même les spin-offs, ça continue à très bien marcher. Le seul point un petit peu négatif, et encore c'était pas non plus une catastrophe du catalogue de Capcom, ça a été Exoprimal. C'était pas un mauvais jeu, c'est juste que ça intéressait personne. Il y a un petit public qui joue très
oui,
bien.
Oui, c'est ça, c'est pas.
Voilà, c'est peu importe. Mais voilà, tout ça fonctionne très bien, ce qui fait que. Alors, les résultats financiers officiels ne sont pas vraiment annoncés, mais ils ont revu leurs prédictions largement à la hausse. Avec des ventes qui augmentent de 8,9% et des revenus qui augmentent de 8,3%. Donc c'est
bien.
Une augmentation de presque 10%, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
Bah, clairement,
oui,
c'est bien.
Et Capcom, ils font tout bien en ce moment. Ils font tout bien, c'est vraiment l'exemple à suivre. Et Konami aimerait bien faire pareil, je pense. mais
Konami, ils n'y arrivent pas.
Ils font tout bien, que ce soit la gestion de leur grosse franchise, hein, Resident Evil, Monster Hunter, ils gèrent ça bien. La revitalisation des franchises un petit peu plus anciennes, tu vois. Ils ont même le courage de prendre un jeu qui était très niche, qui avait marché, mais vraiment très confidentiel, comme Dragon's Dogma, et d'en faire un truc vraiment énorme. Ils ont un super catalogue dans lequel ils peuvent aller puiser la suite. C'est cool. Hein. Après, ils ont toujours des trucs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ils ont Pragmata, qui est annoncé depuis des années et des années et des années. On ne sait toujours pas ce que c'est. Mmh. Tu vois ce que tu les vois, les trailers de Pragmata, c'est, on aurait dit, ça ressemble presque à du Kojima. C'est un truc de science-fiction un peu étrange. On ne sait pas du tout ce que ça va être en gameplay, mais en tout cas, c'est repoussé, repoussé et repoussé.
Mmh, bah, écoute, on verra. Hein.
On verra si ça sort un jour. Il y a Kunitsugami. Qu'ils avaient présenté, qui lui sera sur le Game Pass. Ils font ça avec Microsoft, ça a l'air cool aussi. Non, Capcom, ça se passe bien. Ça se passe bien et on a donc des résultats en hausse. Très content pour eux. Du côté de chez Atlus,
ouais.
On a eu cette semaine énormément de nouvelles informations sur Metaphor ReFantazio. Je te remets un petit peu dans le contexte. Metaphor, c'est le nouveau jeu des créateurs de Persona.
Ouais. Hein. Et oui, et c'est un truc.
Alors, si tu veux être très 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 réducteur, c'est Persona Fantastique.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, on va vraiment prendre le créateur de Persona, hein, Katsuhiro Hashino, qui s'est barré pour faire son propre projet. Ça fait presque 10 ans, je crois, qu'on en parle de ce projet-là, qui arrive cette fois-ci avec. Maintenant, on a la vraie date de sortie du jeu. Le jeu arrive le 11 octobre 2024.
D'accord.
Et voilà, on peut qualifier ça rapidement de Persona Fantastique, mais c'est un petit peu réducteur parce que là, ils ont montré du gameplay, des choses comme ça. C'est un jeu qui a sa propre personnalité, quoi.
Ben, j'espère.
C'est pas juste Persona transposé dans un univers fantastique, parce que ça serait décevant, si tu veux.
Ben, bien sûr.
L'originalité de Persona, c'était vraiment ce contexte moderne, des trucs comme ça. Mmh. Donc si tu prends ce type de jeu de JRP japonais, que tu fais que enlever ce qui le rendait original, c'est un petit peu dommage. Mais visuellement, il est très intéressant. Ça a l'air beaucoup plus ouvert avec des donjons, des trucs comme ça, beaucoup plus d'exploration que dans un Persona. Mmh. Mais avec toujours le système, avec des systèmes de Persona quand même, avec des systèmes de liens sociaux, de calendrier, de choses comme ça.
D'accord.
Scénario, donc on est dans un monde fantastique, c'est une élection.
Une élection.
C'est une élection, le roi du monde est mort.
Le roi du monde,
il est mort, et donc il faut élire son successeur, et d'après les lois de ce monde-là, n'importe qui peut se présenter. Donc tu pars en campagne.
Super.
Non, mais ça a l'air...
Non, mais c'est rigolo.
C'est
finalement un contexte moderne, truc...
C'est un petit peu ça. Donc, tu vas parcourir le monde et tu vas résoudre les problèmes des gens pour gagner en popularité. Ton espèce de QG, ça va être un genre de train qui va te servir de...
Faut bien se déplacer.
De voyager. Voilà. La présentation est vraiment excellente, tu vois. On reste sur les bases de Persona, c'est-à-dire un jeu qui a vraiment sa personnalité, son style, mais c'est un style qui est très différent de Persona. Mais voilà, ça a l'air vraiment cool. Comme dit, il y a un gros trailer et il y a beaucoup d'extraits de gameplay là, qui sont sortis cette semaine et ça donne envie. Voilà, le jeu sort le 11 octobre sur PlayStation, Xbox et PC. Voilà, toujours dans les dates de sortie, Asa, prépare-toi.
Ouais.
Puisqu'on se dirige vers la sortie avec une date de Zenless Zone Zero.
Ah oui.
Le nouveau
mais
jeu.
Ouais, mais non, j'ai pas le temps là.
Le nouveau jeu de MiYoYo, créateur de Genshin et de Honkai Star Rail. Zenless Zone Zero arrive. Alors, ils ont ouvert les pré-inscriptions. Tu peux lancer.
Pré-inscription,
c'est-à-dire tu peux lancer ton PC, ta PlayStation ou ton téléphone préféré pour t'inscrire, créer ton compte et être alerté quand la date de sortie sera annoncée.
D'accord.
Puisque sur PC, sur PlayStation, sur Android, il y a marqué date de sortie cet été.
Ouais.
Sur l'App Store, il y a marqué 4 juillet. Hein.
D'accord.
Donc, au moins, eux, ils ont lâché le morceau. Donc, ouais, on se dirige vers une sortie le 4 juillet, a priori. Et donc, tu peux t'inscrire. Ils sont aussi en train de réorganiser les trucs, surtout pour les joueurs PC, par exemple. Actuellement, sur PC, tu as un launcher pour Genshin Impact, tu as un launcher pour Honkai.
Oui, il faudrait un truc commun. Là.
Voilà, ils sont en train de basculer sur un launcher commun qui va te permettre de gérer tous les jeux MiYoYo sur le launcher.
Oui,
même
à
truc.
Partir du moment où tu as trois jeux. Bon,
ouais, trois jeux, ça commence. Deux jeux, t'es ridicule.
Hein, oui, deux jeux, t'es ridicule avec ton launcher commun. Trois jeux, t'es obligé.
Attends. Deux jeux, t'es ridicule. Un, Rockstar.
Rockstar, ils ont quoi?
Bah, GTA et Red Dead, ils ont leur propre launcher avec deux jeux de merde, quoi.
C'est pas des jeux de merde, mais...
Non, alors...
Mais
non,
ils ont pas...
Non, il y a plus de trucs.
Bah non,
plus...
parce
non,
que t'as...
De... Non, mais t'as raison.
T'as GTA 1 à 5, GTA Online,
alors,
Red Dead, Red Dead 2 et Red Dead Online. Tu peux en mettre plus que deux, techniquement.
GTA, ça fait partie de ces jeux où ça a commencé à 3. Hein.
Bon, bref.
Persona, ça a commencé à 3. GTA, ça a commencé à 3.
Oui,
Street Fighter, ça a commencé à 2.
Non, mais je veux dire 3 à 5, ça fait déjà 3 jeux, quoi.
Oui, non. Alors non, encore une fois, c'est beaucoup plus que ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais t'as raison. C'est compliqué.
C'était une connerie, encore. Passe-moi du...
Tiens,
du orange, là, parce que je suis en train de faire... Fatigué.
Revenons chez Embracer qui n'existe plus. Revenons plutôt chez Middle Earth and Friends.
Non, par contre, quand je bois, tu peux pas sortir des conneries pendant que j'avale. C'est pas possible. Je vais cracher.
Donc, édité par Middle Earth and Friends.
Arrête, tu fais exprès, hein.
Développé par. Par Weta Workshop, hein, donc les gens qui font les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux.
Bah oui.
Ils font des jeux vidéo aussi.
Ah putain.
Bref, on a eu un premier trailer de Tales of the Shire, les contes de
la comté.
Les contes de la comté. Ah, c'est beaucoup plus cool en français. Tales of the Shire, c'est Animal Crossing mais Hobbit.
Ouais.
En gros. Si tu vois ce que je veux dire, c'est Stardew Valley, mais Hobbit. Mais c'est parfait.
C'est nickel.
C'est
hein.
Parfait.
Je suis désolé, mais...
Ça a l'air super mignon, c'est super joli. C'est en 3D, hein, je compare à Stardew, mais c'est vraiment...
Ah, c'est en 3D?
Ouais, c'est assez joli. En 3D, mais stylisé, pas cartoon, mais presque, tu vois, c'est très coloré.
Est-ce que tu joues Sam Gamgee?
Tu joues un Hobbit. Tu peux customiser ton propre Hobbit. Et tu vas, en fait... comment dire, tu vas t'occuper du trou de ton Hobbit. Hein.
Bah, c'est ça.
C'est ça. Le trou de Hobbit. Donc voilà, non, tu vas pouvoir faire ta vie de Hobbit, hein, cultiver tes trucs, les relations avec les autres Hobbits, et faire la cuisine. Et
ouais,
voilà.
C'est trop
non,
cool,
c'est
quoi.
Une vie de Hobbit, c'est
une
trop
vie
cool.
De Hobbit,
il y aura,
c'est trop bien.
Hein, y a pas de combat dans ce jeu.
Bah
et c'est très, ça a l'air vraiment très cool. C'est,
mais en même
bah,
temps,
c'est un farming sim.
Je veux dire, une vie de Hobbit, c'est ce qu'on va avoir dans pas très longtemps. En
ouais,
fait.
C'est ce qu'on veut.
C'est ce qu'on veut.
C'est ça.
On part en Haute-Savoie pour ça, on va vivre comme des Hobbits.
Mais complètement.
Si on y arrive.
Si on y arrive un jour.
Mais, mais voilà. C'est ça, on va avoir une vidéo Hobbit là-bas.
Il n'y a toujours pas de date de sortie exacte pour Tales of the Shire, mais ça devrait sortir cette année, dans la deuxième moitié de cette année, sur Switch, sur PC, sur PS5 et sur Xbox. Et ça a l'air vraiment, vraiment,
ouais,
vraiment mignon.
Ça a l'air cool.
Je te montrerai la bande-annonce, elle est très cool. Voilà, rapidement sur les dernières news de cet épisode, Meta / Facebook ouvre le système de leur MetaQuest, leur casque de réalité virtuelle.
Ouais.
Ils ouvrent leur système aux constructeurs tiers, c'est-à-dire que d'autres constructeurs que Meta pourront faire leur propre casque compatible.
J'ai pas compris.
Actuellement, si tu veux un casque, un MetaQuest, leur casque de réalité virtuelle, il faut acheter le leur. C'est eux qui le fabriquent pour jouer à leur catalogue de jeux exclusivement sur leur truc.
Ouais.
Maintenant, il y a d'autres constructeurs, d'autres marques de matériel qui vont pouvoir fabriquer leur propre casque qui sera compatible, qui pourra se connecter au même store et jouer au même jeu et au même truc.
D'accord.
Voilà.
Okay.
C'est ça, c'est tout. C'est la news.
Les jeux seront compatibles avec d'autres casques que le MetaQuest. Non,
d'autres constructeurs pourront fabriquer des casques qui feront exclusivement tourner les casques, les jeux Meta.
Ouais, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Donc ils vont utiliser la technologie qui est dans le casque pour faire d'autres casques en
c'est
fait.
C'est ça.
Voilà,
c'est
ça que j'avais pas compris.
C'est ça. En gros.
C'est pas ils fabriquent un casque compatible avec les jeux du MetaQuest. C'est ils fabriquent un casque avec la technologie du MetaQuest.
Ouais. Et qui sera compatible avec les jeux MetaQuest.
Qui sera donc compatible avec les jeux MetaQuest, mais
uniquement ces jeux-là.
Oui, mais ce sera un autre casque que le MetaQuest.
Exactement,
en fait.
Exactement.
Mais avec la technologie du MetaQuest.
Exactement.
Pas une autre technologie qui pompe la technologie du MetaQuest
non.
pour jouer au jeu.
Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça.
C'est
d'autres jeux.
Un autre casque avec la technologie du MetaQuest pour jouer au jeu compatible avec le MetaQuest.
C'est ça.
Donc ils vendent leur technologie à d'autres constructeurs.
C'est ça.
Voilà. Tu vois, c'était compliqué quand même. Est-ce que. Hein, vous me direz si vous aviez compris de base, les gens.
Non, le dites pas. Bluebird Team, tes meilleurs amis.
Oh, Bluebird
Team confirme qu'ils ont, en plus de leur remake de Silent Hill, deux projets en développement.
Vous voulez pas faire un truc à la fois, déjà?
Non, ils en font trois.
Un truc bien à la fois, ça serait pas mal. Et après, enchaîner sur le reste, quoi.
Voilà. Un premier projet, nom de code, projet C. La lettre.
Connard.
Projet Connard, qui développe actuellement en partenariat avec l'éditeur Private Division, qui est une division de Take-Two. C'est un projet qui est actuellement très avancé et qui sera révélé très bientôt. L'autre projet de Bluebird Team, c'est projet R.
Rencho.
Qui devrait être dévoilé en 2025, sans précision de sa date de sortie. Lui, c'est un projet qui est fait en partenariat avec, comment il s'appelle, Skybound.
Comment il s'appelle, j'en sais rien. C'est quoi Skybound?
Skybound Game Studio. C'est non mais... C'est eux qui font par exemple Skybound, c'est eux qui font par exemple le jeu Black Panther Captain America dont on parlait il y a quelques semaines.
Ah.
C'est Skybound qui fait ça.
C'est un gros studio donc.
C'est un gros studio. Bah disons, c'est pas vraiment ils ont des studios de développement mais ils sont aussi propriétaires de plein de licences.
Ah, c'est des financiers donc.
Voilà, c'est ça et c'est par exemple c'est eux qui ont toutes les licences de ce que fait Robert Kirkman. Robert Kirkman, c'est The Walking Dead. Par exemple. Donc ça peut très bien être un jeu par Bluebird Team dans l'univers de Walking Dead, vu que c'est des amateurs de trucs d'horreur. Ça serait un truc qui pourrait très bien matcher.
Putain, Bluebird Team et Walking Dead.
À voir.
À voir. Et oui, non, Bloober Team, c'est un petit peu aléatoire ce qu'ils font. Mais en tout cas, en ce qui concerne Silent Hill 2, ils annoncent être extrêmement confiants.
Mais c'est bien. Non, mais après, pourquoi pas.
Tant mieux. Des bisous, Bloober. Blizzard annonce que la BlizzCon 2024 est annulée.
Sérieux ?
Eh oui.
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'ils, je sais pas, parce qu'ils ont rien à montrer, j'imagine. Hein. Mais voilà, pas de BlizzCon en 2024.
Mais ça va pas d'annuler la BlizzCon comme ça pour rigoler ? Tu te crois où, là ?
Après, faut dire que celle de 2023, c'était la première depuis très longtemps.
Oui.
Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Enfin, pas grand-chose.
Ouais, mais les gens, ils se sont jetés dessus, on est d'accord.
À part trois extensions de World of Warcraft.
Non, mais je veux dire, les gens, ils étaient contents d'aller à la BlizzCon.
Ah, les gens, ils étaient contents, hein, mais là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à dire et pas grand-chose à montrer.
Ouais, mais attends. Bon, on est d'accord. Moi, annuler la BlizzCon, c'est normal. Mais...
D'accord.
On va dire, objectivement, c'est normal. Subjectivement, ils n'ont jamais annulé de BlizzCon. Même quand ils n'avaient rien à dire, ils faisaient, turlututu sur la scène.
Ouais.
Et ils faisaient quand même quelque chose jusqu'au Covid. On est d'accord.
Jusqu'au Covid, voilà, exactement. Jusqu'au Covid. Après, le Covid, ça s'est arrêté. Ils ont eu du mal à réembrayer derrière. Ils ont fait leur première BlizzCon physique en 2023 depuis le Covid.
Mais ça a bien marché.
Alors... Je sais pas si ça a bien... Peut-être que
c'était de la merde, mais ça a bien marché.
Mais voilà, après, alors, c'est ce qu'ils disent, hein, after careful considération, donc après examen attentif de l'année dernière, nous avons, chez Blizzard, pris la décision de ne pas tenir de BlizzCon en 2024. Cette décision n'a pas été prise à la légère, et la BlizzCon reste un événement très spécial pour nous, et je sais que nombre d'entre vous se réjouissaient.
Ben ouais.
Voilà. Nous faisons une approche différente cette année. Nous avons exploré différents formats dans le passé, mais voilà, soyez assurés que la BlizzCon reviendra dans les années prochaines. Mais voilà, juste pas cette année. Voilà, alors, il y aurait pu y avoir des choses, hein, puisqu'on serait autour de la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft, hein, The War Within.
Elle sort quand, cette extension ?
À l'automne, en fin d'année. Hein, c'est quelque chose qui est prévu toujours pour...
Ben voilà, et alors, c'est quoi leur problème ? Il n'y a pas eu de reveal de la prochaine...
On aurait pu aussi montrer la première extension de Diablo 4, hein, Vessel of Atred, hein, qui devrait sortir...
Vessel of Atred ?
Ouais.
La vaisselle de la haine.
Non, le réceptacle de la haine.
Oui, la vaisselle de la haine.
Oui, les WC de la haine, qui devraient sortir, entre guillemets, dans les prochains mois... voilà. Ils annoncent que, par contre, ils ont des exciting plans pour la Gamescom cette année. Donc, les Allemands.
Ils s'en foutent de la Gamescom. Ou la Gamescom.
Voilà.
Ouais, non, c'est un peu. Je sais pas.
Voilà. Et ils vont aussi faire de multiples événements à travers le monde pour commémorer les 30 ans de la franchise Warcraft.
Attends, c'est les 30 ans de Warcraft et ils font pas de BlizzCon ?
Les sorties cette année, cette semaine, hasard. Calme-toi, attends, regarde. Ça te détend.
Non, ça me détend pas du tout. Non, et on n'a pas fait le...
On détend.
Je voulais la section petite bite.
Ah, le point connard.
C'est ça.
Voilà, oui.
Le
alors.
Point connard.
Exactement. Non, alors c'est vrai que vous...
Mais t'as un jingle pour le point connard. Non. Il y a pas mal celui-là. Arrête ! Mais arrête !
Donc, le point connard. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué qu'on n'a pas parlé de Stellar Blade, hein, qui est sorti cette semaine. On n'a pas joué à Stellar Blade. J'ai pas super envie de jouer à Stellar Blade pour plein de raisons.
Maintenant, oui.
Voilà.
Mais on a envie d'y jouer. On va vous expliquer
c'est
pourquoi.
C'est rigolo. Par contre, c'est un petit peu le théâtre de mon petit zoo personnel où je peux observer le comportement de nos amis du Gamergate qui s'excitent dans tous les sens autour de ce jeu qui devait être le messie, le sauveur, le jeu qui les sauve de l'oppression de la patriarchie
de l'oppression de la matriarchie.
Oui, plutôt l'inverse en fait. C'est le jeu qui ça devait être le jeu qui enfin leur permettait d'être des hommes, des vrais
et de sortir leur bite quand ils voulaient la sortir.
Turgescent.
Non, voilà.
Je suis pas sûr qu'il soit très turgé.
Non, alors voilà, on va essayer de rester très factuel. Stellar Blade, tout est.
Mais
évidence.
Non, on va pas rester factuel quand
si,
même.
Non, mais factuel pour certaines choses et rigolo.
On fait un point connard, c'est pas factuel quoi.
C'est pas factuel, voilà.
Non, on est complètement pas factuel.
Non, Stellar Blade est sorti.
Bisous les connards.
Stellar Blade est sorti cette semaine. De toute évidence, c'est un super jeu. Le gameplay est plutôt ouais, excellent. Les critiques, pas de nous parce qu'on n'y a pas joué, on se permettrait pas, mais les critiques de la plupart des critiques disent que c'est plutôt un jeu qui, dont la force, c'est un gameplay très solide. Les points faibles, c'est un univers un petit peu nul, une histoire un petit peu nulle et des personnages pas intéressants. Je sais pas où est-ce que j'ai déjà lu un truc.
Tout
comme
ce que
ça.
T'avais dit, quoi, c'est
à
ça?
À peu près. voilà, avec des rebondissements d'histoire sans surprise et convenus. Tu ne devineras jamais ce qui se passe entre le personnage qui s'appelle Adam et le personnage qui s'appelle Ève. On va pas spoiler.
Attends, parce que le
mec s'appelle Adam, ouais. Elle s'appelle Ève.
Le mansplainer, il s'appelle Adam?
Ouais. Non, c'est une bref.
Oui, c'est une caricature. Ouais.
Bref. Donc ouais, tous les gens, tous les gamers ghetteux qui défendaient ce jeu, ils sont tous désabusés parce que ils se sont rendus compte que leur jeu adoré a été censuré. C'est pas ça la censure, mais bon, on va pas revenir sur la définition. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu a été patché à sa sortie. Deux grosses différences sur le jeu entre la version originale et la version patchée qui peuvent être attribuées à de la censure. Alors, un vrai truc qu'il fallait patcher, et je pense que c'était complètement accidentel, il y avait une succession de... En fait, à certains endroits du jeu, il y avait un tag sur un mur. Bon, voilà, c'était du décor, hein, c'est un tag qui était là. Et il y avait une enseigne d'une boutique qui était juste à côté, c'était une juxtaposition. Les deux trucs, les deux éléments côte à côte, ça faisait un truc super raciste. Voilà, c'est une erreur, c'est accidentel, c'est deux éléments de décor qui allaient pas bien ensemble, ils ont corrigé ça.
Ouais, super raciste, mais c'est en américain quoi.
C'est de l'américain.
Pour les noirs américains, quoi, voilà. C'est ça. Pour nous,
ça a été corrigé.
Je sais pas si quelqu'un aurait capté en Europe quoi.
Mais bon, ça a déjà scandalisé pas mal de gens qu'on s'insurge pour ça et qu'on soit obligé de le patcher. Autre chose, il y a certains costumes de Eve qui ont été patchés, qui ont été corrigés parce que, alors je sais pas pourquoi, hein, mais qui sont moins affriolants dans la version finale que dans la version qu'on a vue sur les trailers et dans les versions sans le patch. Et donc voilà, donc là il y a beaucoup de gens qui crient au scandale parce que leur jeu adoré...
Ne dis pas beaucoup de gens.
Il y a ces gens-là, bah, ils sont bruyants.
Non mais eux, je veux dire, c'est pas beaucoup de gens, c'est ouais, eux ouais. quoi.
Mais c'est cette communauté. Hein,
c'est la communauté des...
De Gamergate, hein, c'est comme ça qu'ils se...
Alors comment on les appelle? Est-ce qu'ils ont vraiment des petites bites, ces gens?
C'est la communauté Gamergate, c'est comme ça qu'ils se définissent, c'est leur mouvement, c'est ce qu'ils défendent.
Et leur mouvement, il faut avoir des idées pour créer un mouvement.
Mais c'est ça, mais leur idée c'est ça, après tu es pas d'accord avec eux, mais c'est ça leurs idées, et c'est, voilà, ils sont...
Leurs idées c'est les filles à poil.
Leur idée c'est
et...
merde, pour une fois qu'on peut se toucher en jouant aux jeux vidéo,
voilà,
merde.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est un petit peu triste, mais c'est rigolo de les voir se décomposer et de boycotter le jeu parce qu'ils ont osé censurer un maillot de bain qui était un petit peu trop échancré avant le patch.
Oui, oui, voilà, parce que la censure...
Parce qu'on parle de
fait,
ça, on parle d'un maillot de bain qui est un tout petit peu moins échancré sur la version finale.
Donc en fait, le maillot de bain, donc c'était donc vraiment un maillot de bain, une pièce en fait, donc très échancré.
Alors c'est ce qu'ils appellent c'est un bunny suit, hein, c'est un costume de lapin, puisqu'il y a la petite queue de lapin derrière.
Ah ok, j'avais pas vu qu'il
ouais,
y avait
non,
la queue
de lapin.
Ouais,
non, c'est très playboy. Mais moi aussi, j'avais pas vu, et puis finalement, j'ai vu une vidéo, et en fait, non, c'est ça.
Ouais, mais excuse-moi, dans Playboy, il y a la queue de lapin, mais elle s'est pas échancrée, quoi.
Voilà, enfin, c'est ça. Donc, ouais, il y a un décolleté qui descend jusqu'au nombril. Et
ouais, c'était très échancré au niveau de la poitrine, et très échancré au niveau des...
Ouais.
Des jambes, en fait.
Au niveau des jambes, au niveau de l'entrejambe aussi, ouais. La version originale du costume. Comment décrire ça avec tact et sans vulgarité? Mais la version originale du costume, disons, laissait apparaître le relief de l'entrejambe au niveau du maillot.
Oui, c'est ça.
Ce que la version corrigée ne fait plus.
Oui, voilà, ils ont rajouté en fait du tissu pour que...
Ouais.
Bah voilà, pour qu'on voit pas trop...
Le
qu'on voit pas trop le début de sa fouf, quoi. Je sais pas comment dire autrement.
Non, mais c'est ça. Et le maillot original, lui, rentrait dans la fouf, littéralement. Donc,
oui, voilà. Mais ça, mais oui, voilà, parce que ça, ça te rentre dans la fouf, quand même.
Non, mais c'est ça. Et donc ça, ça a été corrigé.
Je veux dire, en vrai, ça te rentre dans la fouf. Tu peux pas porter un truc pareil.
Non, mais il y a plein de choses qui se passent dans les jeux vidéo que tu peux pas faire en vrai. Mais ça, c'est
non,
pas
mais
grave,
bon,
tu vois.
Quand même. Mais et ils ont rajouté un morceau de tissu en haut.
Ouais, pour limiter le décolleté.
Pour limiter le décolleté qui était, comme dit, jusqu'au nombril. Ouais,
et ça, ça scandalise les gens qui, pour ça, appellent au boycott
du jeu.
Du jeu. Hashtag Free Stellar Blade. non, mais je rigole pas. Je rigole pas. C'est des gens qui sont super sérieux. Ils en dorment pas la nuit, quoi.
Et voilà. Non, mais c'est bien parce que c'est... le jeu pour lequel ils étaient tellement choqués que tu dises des choses contre leur jeu adoré, maintenant ils le boycottent, quoi. Ils sont tellement cons que maintenant ils veulent plus y jouer. Donc nous, on va y jouer maintenant, du coup.
Ouais, du coup, je vais me venger, je vais jouer au jeu. Quelle bande de petites merdes. Allez.
Il n'y a toujours que toi qui as le droit d'insulter les gens dans ce podcast.
Mais toi aussi, je t'empêche pas d'insulter les gens.
Mais si.
Mais non.
Tu m'as toujours empêché d'insulter les gens.
Les sorties de cette
semaine. Et je suis pas contente.
Les sorties de cette semaine.
Et ça fait depuis que je me retiens de.
Je suis désolé. Les sorties de cette semaine.
Et ouais.
Asa. Et ouais.
Et ouais.
Et ouais. Alors pas grand chose cette semaine.
Ok.
Non, mais voilà. Il y a une version PlayStation 5 de Sea of Thieves qui arrive le 30 avril, c'est demain, mardi. Ben oui, c'est les jeux Microsoft qui arrivent sur PlayStation.
Non, mais oui, ok.
Hein, ça y est, c'est...
Oh, je suis fatiguée.
Hein. Ben, je vois ça. Non, voilà, pas grand-chose cette semaine, à part la version PS5 de Sea of Thieves qui arrive. Ouais, c'est tout ce qu'on va avoir en sortie. Maintenant, pour être complet dans l'agenda, ce soir à 19h sur la plupart des sites de streaming, il y a un nouveau showcase dédié aux indépendants, mais cette fois-ci, c'est Microsoft qui organise le truc.
Ah, Alors, ça sera peut-être mieux que la dernière fois.
Voilà, c'est leur showcase digital, ID at Xbox.
Donc dimanche soir ou lundi soir ?
Lundi soir, lundi 29 à 19h. C'est aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui pour les gens qui écoutent cet épisode le
oui,
lundi.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dimanche, hein, donc c'est lundi soir.
On enregistre le dimanche, donc c'est pas aujourd'hui. Voilà, non, okay. C'est lundi soir, 29 à 19h. Si vous écoutez l'épisode en retard ou que vous avez plus d'une
vous
journée
l'avez
à
raté,
écouter,
c'est fini.
C'est raté, vous le verrez plus jamais.
Ah, et donc c'est là qu'ils vont enfin annoncer le jeu que tout le monde attend, c'est ça ?
Bonne question. On arrête de se mouiller pour Silksong parce que merde, mais c'est vrai que Silksong, on sait que ça va être annoncé bientôt. Un événement Microsoft, pourquoi pas ? C'est même plutôt logique puisque c'est un jeu qui va arriver sur le Game Pass à sa sortie. Donc ça serait logique de voir ça chez Xbox. Maintenant, voilà, les showcases indés de Microsoft, c'est des trucs qui sont assez petits généralement. Silksong n'est pas devenu trop grand pour ce type d'événement ? Est-ce qu'il le garde pas pour le gros showcase E3 de juin ?
Je sais pas.
À voir.
Je sais pas, et malheureusement, je m'en fous.
En tout cas, ce qu'on va y voir sûr et certain, c'est Lost Records, Blue Moon Rage, c'est le nouveau jeu.
Une idée.
Bah, laisse-moi te dire ce que c'est. C'est le nouveau jeu des créateurs de Life is Strange qui a vraiment des vibes Life is Strange. Voilà, Dontnod, ils sont maintenant indépendants, ils sont plus avec Square Enix qui a gardé la licence Life is Strange, donc c'est un petit peu la réponse des créateurs de Life is Strange sur ce truc là ça a l'air très sympa, on va avoir plus d'infos là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va avoir des images de jeux qu'on connaît déjà, hein, Dungeons of Heidenberg, sorti suite Immortals. Et quelques surprises, hein. Quelques surprises, on va voir ce que ça donne. En tout cas, comme dit, lundi 29 à 19h heure française sur la plupart des sites de streaming. Voilà pour cette semaine, ma chère Asa. Voilà pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine.
Merci.
Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Passez une excellente semaine. Des bisous.